Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans le sixième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. À Halloween 1968, un groupe de féministes new-yorkaises manifeste à Wall Street. Elle s'appelle Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, aka Witch. Robin Morgan, l'une de ses membres, a écrit plus tard qu'à l'époque, elle ne connaissait pas grand-chose de cette chasse aux sorcières. Elle avait fait ça de manière totalement spontanée. Des féministes en Europe et aux États-Unis se sont emparées de cette histoire et l'ont revisitée de manière sérieuse. La sorcière devient une figure de revendication avec les féministes des années 1960-1970. Mais alors, comment la sorcière a-t-elle pu devenir un objet pop et sympathique alors que des milliers de femmes ont été exécutées depuis des siècles pour sorcellerie ? L'essayiste Mona Chollet explique comment la sorcière, victime éternelle de l'ordre moral des hommes, est devenue une icône du féminisme dans son livre « Sorcière, puissance invaincue des femmes ». Derrière l'image pop de la sorcière se cachent en réalité des siècles de terreur pour la femme, autant rebelle que victime du patriarcat, la sorcière est l'icône féministe ultime. Aujourd'hui, il n'y a pas un féminisme mais des féminismes, des femmes et des hommes qui se battent pour le droit des femmes, parfois de façon différente, dans l'optique juste d'obtenir l'égalité. À seulement 22 ans, Eve est illustratrice, activiste, féministe. Elle me fascine par son combat et son engagement, crayon de couleur au poing. Elle dessine des personnages colorés, pourtant le message derrière est important et parfois grave. Ça vulgarise, ça envoie des couleurs dans tous les sens, c'est beau et le message prédominant est clair, à nous de faire du bruit. Dans sa toute première BD, à corps et à cri, Eve dit que pour changer les choses, il faut porter un nouveau regard sur ce que l'on a bien sagement appris jusqu'ici pour tout désapprendre. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est aussi très très loin de mon cercle proche puisqu'il s'agit de ma belle-sœur. Après avoir fait Manon, qui nous a parlé de son cancer du sein, qui est aussi ma belle-sœur, voici Eve. Bonjour Eve.
Bonjour.
Alors Eve, je suis trop contente de te recevoir pour cet épisode qui n'a rien à voir avec tous les autres. Et c'est ça qui est cool aussi. Eve, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es ?
Oui, bien sûr. Bah, du coup, je m'appelle Eve, je suis illustratrice et militante féministe. Et
avant tout, gardienne de la paix.
Voilà, bien sûr, c'est ça.
Donc, tu officies sur Internet, plus précisément sur Instagram.
Principalement, oui.
Et tu as quand même fait toutes tes études dans l'art, si je puis dire, et dans l'illustration, non ?
Pas dans l'illustration, en fait. J'ai fait des études de graphisme.
Ah oui, c'est vrai, c'était pas, justement, tu n'étais pas trop chaude.
Ah non, pas trop, non. Ça m'a bien saoulée.
Et toi aussi, tu viens pas... Bah, alors, à chaque fois, j'ai l'impression de n'interviewer que des gens qui ne sont pas de Paris, puisque vous êtes tous...
Arlésiens.
Ouais, la majorité de mes invités sont arlésiens.
Après, moi, j'ai quand même une double casquette. Je mens pas mal, parce qu'en fait, je suis née à Paris, quand même.
T'as la double nationalité.
J'ai la double nationalité. Paris-Arles.
Ah bon, t'es pas née à Arles ?
Non. Non, non.
Ah bah, tu m'as flouée, parce que vraiment...
Je t'ai flouée, tu as cru, je n'ai rien dit, voilà.
Mais t'as fait toute, quand même, ton enfance à Arles.
Et je suis arrivée à 10 ans à Arles.
Ah oui, alors d'accord, moi j'avais raté ça. J'ai cru que
tu
étais arrivée hyper
petite.
Bah non, voilà. Je ne t'ai pas connue. Tu as 11 ans maintenant, donc du coup.
Déjà, ça passe vite.
D'accord, donc tu es parisienne, mais tu es expatriée à Arles. Et là, tu es revenue à Paris.
Ouais.
Ça fait un moment déjà. Et donc, tu es avec mon beau-frère, qui s'appelle Léo, ton chéri, qui monte les épisodes de ses podcasts. Donc, il aura la joie immense. Donc, on va essayer de faire ça court. Eh bien, Léo, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours, peut-être du lycée, collège, lycée, jusqu'à maintenant ?
Oui, bien sûr. Bah, du coup, je suis arrivée à 10 ans à Arles, donc vraiment au début du collège. J'ai fait tout mon collège et tout mon lycée à Arles. Et du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré Léo aussi et toute la famille arlésienne qui s'ensuit.
Attends, parce qu'on a oublié de dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
Ça va faire 8 ans en juin.
8 ans. Et
voilà.
Ces gens-là sont très très jeunes. Que toi, t'as quoi ? 22.
Oui, j'ai 22.
Et ouais. Bon, alors, si vous avez besoin d'une petite note d'espoir, elle est là.
Ouais. Bah ouais, je sais jamais trop quoi dire parce que moi-même je suis un peu choquée à chaque fois, donc
moi-même je n'en reviens pas.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais du coup, vous faites collège lycée ensemble et ensuite vous faites pas les mêmes études.
Ouais, non, on fait pas les mêmes études. Bon, même si c'est quand même heureusement qu'on fait pas les mêmes études parce qu'on fait déjà beaucoup de choses ensemble.
Oui,
il y a un moment ça va. Mais oui, en fait, bah on n'avait pas, c'est pas forcément les mêmes choses qui nous animaient, même si c'est pas extrêmement loin. Moi, j'avais plutôt envie de faire des arts appliqués, du coup, à la fin du lycée. Et Léo, depuis très longtemps, voulait faire du cinéma, donc c'était voilà, moi arts appliqués et lui cinéma.
Et est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire à la fin du lycée?
Alors en fait, j'ai voulu intégrer une terminale arts appliqués, mais j'ai pas été prise. Du coup, je suis allée en scientifique. C'était en première, du coup, plutôt.
Ah, t'as fait scientifique, t'as fait S.
Ça aussi, je sais pas quoi en dire, parce que, bon, voilà, c'était un chantier. Mais,
c'était gros dos.
Un gros dos, ouais. Les gens sont toujours choqués. C'est une petite carte secrète que je dévoile à chaque fois. Mais du coup, j'ai voulu faire art appliqué, mais ça n'a pas été possible, puisqu'il y avait très peu de place, etc. Donc, je me disais, bon, bah...
Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus?
Voilà, la SVT, évidemment, ça coule de source. Mais du coup, je me suis dit, après le lycée, c'est sûr, j'essaierai de faire des études d'art, etc. Tout en, à ce moment-là, ne sachant absolument pas de quoi il en retournait. Voilà.
Et donc, tu as décidé de t'orienter dans une école de graphisme. Alors, pour la petite anecdote, moi aussi, j'ai fait une école de graphisme. Et regardez où nous en sommes. Hein, voilà.
Deux grandes graphistes.
Deux grandes graphistes devant l'éternel. J'imagine que tous les illustrateurs n'ont pas envie de se retrouver en école de graphisme, en fait.
Oui, ouais, totalement. En fait, moi, quand je me suis retrouvée en école de graphisme, je n'avais pas encore comme idée de faire de l'illustration.
Ah, tu savais pas encore?
Non, je savais pas, mais parce qu'en fait, l'illustration, c'est un truc que tu te dis jamais que tu vas en vivre.
Mais tu dessinais déjà.
Je dessinais au lycée. De toute façon, quand tu passes les concours des écoles d'art, tu présentes des carnets de croquis avec plein de dessins, etc. Donc ça, je dessinais. Mais en fait, l'illustration, c'est un peu, enfin, c'est comme je vais voyager et gagner ma vie comme ça.
J'en connais une qui en a fait son métier.
Ben, c'est quand même assez rare, quoi. Et du coup, c'est pas du tout un truc que j'avais envisagé. Et le graphisme, ça a ce côté rassurant de t'as un métier dans les mains, voilà, tu peux faire plein de choses, travailler partout,
un petit matelas, quoi.
Voilà, un petit matelas qui rassure bien les paternels et maternels aussi, voilà. Mais non, du coup, je me pensais pas du tout que j'allais faire de l'illustration, quoi.
Et en fait, c'était quelle école?
Alors, c'était l'EPSA à Paris, qui est donc École Professionnelle Supérieure des Arts Appliqués, qui s'appelle des Arts Appliqués, mais en fait, c'est que graphisme. Donc, c'est un petit peu, voilà, mensonger. Mais...
Les écoles ont toujours des noms de médicaments. C'est toujours EPSA, IFRU, Crapereux...
ESRA,
exactement. T'as toujours l'impression d'être dans le domaine médical. Et donc, toi, t'as fait l'EPSA, et ça, c'est combien d'années?
Alors, c'est 3 ans et 4 avec la prépa. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à dessiner de façon plus régulière et plus intensive pendant que je m'ennuyais à l'école, en fait. Et surtout, pendant la deuxième année, j'ai ouvert un compte Instagram et il y avait littéralement mes amis qui me suivaient et je postais des petits trucs comme ça de temps en temps. Et de fil en aiguille, c'est ce qui m'intéressait le plus de dessiner pendant... les heures de PAO, voilà, de design, enfin, vraiment, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, mon école était très portée sur la communication, en fait, donc sur un graphisme très marketing, très...
Pour ceux qui allaient partir en agence, peut-être
c'est
aussi.
C'est ça, ouais. C'est le but de l'école, c'est d'envoyer leurs élèves en agence. Et moi, ça, j'ai capté quand même assez tôt qu'aller dans une agence et faire les pubs de Fleury Méchon, ça allait pas être possible.
Quoi? Alors ça, je ne comprends pas.
Je sais, ça choque toujours, mais
Choqué de fou.
Ouais.
Et donc du coup, t'as fait les 4 ans.
Ouais.
T'as fait les 4 ans, t'as bien tenu quand même.
Oh purée, sur la fin, j'étais en roue libre.
Mais
là.
C'était il y a pas longtemps en plus, c'était l'année dernière.
Ouais.
Et alors, ton compte Instagram, là où tu postais au début, c'était ton compte perso ou t'avais créé un compte spécial?
Non, j'avais créé un compte spécial, c'est ça.
Donc ton compte qui est toujours le même qu'aujourd'hui, qui s'appelle About Evie.
C'est ça.
Donc c'est un peu ton alter ego, parce que t'as ton compte perso, tu t'appelles Eve. Donc en même temps, bon, voilà. Parce que moi, je l'ai découvert tard. Si je remets les choses dans leur contexte, je t'ai connue quand j'ai rencontré Hugo assez rapidement. Et du coup, ton compte était déjà bien rempli d'illustrations et déjà bien rempli en termes d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui te découvraient au fur et à mesure un peu tous les jours. Et je n'ai vu que de... Comment refaire ma phrase ? Je n'ai eu de cesse que de ne le voir croître. Et aujourd'hui, on en est quand même... On va cacher un petit peu, on va en garder pour la suite, mais bon, il y a quand même beaucoup de monde sur ton compte et ton contenu s'est beaucoup affiné avec le temps. Je vois que tes dessins d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. On a même dans notre bibliothèque, on a des dessins de toi du tout début qu'Hugo avait déjà avant que je le rencontre. Donc, je vois vraiment la différence entre avant et aujourd'hui. C'est le même style, mais il y a quelques trucs qui ont changé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Comment ton dessin a évolué? Comment tu as eu envie de ne faire plus que ça? Et qu'est-ce qu'on se dit au moment où on se dit, bon, bah, je vais faire que ça, YOLO, on verra, quoi.
Ouais, bah, effectivement, mon dessin, il a beaucoup changé, et heureusement, parce que je pense qu'on progresse toujours, et encore plus, voilà, quand tu commences un petit peu à dessiner, le style ne s'est pas complètement affiné et t'as pas complètement trouvé ta patte, c'est complètement normal. Et du coup, forcément, il a évolué. Et aujourd'hui, il est quand même de plus en plus... Enfin, je pense qu'il est proche de ce qui va rester. Enfin, même si j'espère que ça va toujours un petit peu bouger, puisqu'on n'a jamais atteint voilà, la perfection, la finalité parfaite, etc.
Et comment tu le définirais d'ailleurs, ton style de dessin ?
Je dirais que c'est du dessin pop.
Ouais.
Puisque c'est coloré, c'est assez joyeux, c'est à la fois assez des traits qui peuvent paraître peut-être enfantins, mais en fait, ça relève pas vraiment de l'illustration jeunesse. Mais c'est pour ça qu'il y a ce côté pop, je pense, qui...
Oui, je trouve pas que ça fasse jeunesse. Oui, ça fait pop. Non, mais pop,
dire,
c'est
quoi,
bien.
Mais,
ouais. Ça mélange plein de styles, mais ça fait pas jeunesse, effectivement. C'est... On est entre deux, je pense.
Ouais. Ouais, c'est un entre deux que j'aime bien Jones. D'ailleurs.
Moi, j'ai 33 ans, je peux dire Jones.
Jones.
Mais ouais, il y a ça, et tu le définirais comment dans ce qu'il y a derrière comme valeur ?
Eh bah, pop féministe,
ouais.
Du coup, bah oui. En plus, j'aime bien cette appellation de pop féministe. Moi, je sais que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve vachement, parce que j'aime bien faire du féminisme quelque chose de joyeux et quelque chose qui donne envie et qui est communicatif, etc., quoi.
Bah, je pense que c'est le bon terme, j'avais jamais entendu ce terme, mais ça colle parfaitement. Alors du coup, bien sûr, je ne manquerai pas de vous mettre dans la barre d'infos tous les liens vers Eve, parce que là, de vous décrire un dessin, c'est super
compliqué.
Oui, c'est
hyper difficile. Ouais.
C'est comme si on jouait à Tabou, mais genre là, comme ça, en podcast.
Level 1500, quoi.
Donc bah, voilà, il faudrait que vous regardiez peut-être avant ou pendant que vous écoutez ce podcast. Et du coup, ouais, quel est le moment où tu t'es dit, bon, bah, voilà, j'ai ma patte, j'aime faire ce style-là, je me sens bien avec ça, vas-y, je tente tout.
Bah, du coup, j'ai commencé à dessiner, à faire poster des choses dans mon coin, sur mon Instagram, etc. Et de façon assez surprenante, ça a pris un petit peu. Bon, au début, c'était rien du tout. J'avais 150 personnes qui me suivaient, j'étais trop contente.
Tes copains, ta famille.
Mes copains, ma famille. Et puis ça s'est peu à peu élargi. En fait, il y a un moment donné où j'ai décidé que j'allais dessiner que avec les couleurs primaires. Et du coup, ça donnait une espèce d'harmonie à mon feed. Tu vois, c'était du coup que rouge, bleu, jaune. Et du coup, tous mes dessins se répondaient un peu. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui plaît bien d'avoir une harmonie, en fait. Ça participe au style. Et moi, à cette époque, à cette époque, j'étais
à l'époque
en
de
mode,
l'année dernière.
Là, à l'époque des couleurs primaires, voilà, j'étais en mode ouais, c'est super, c'est ça mon style, je vais dessiner toute ma vie en bleu, jaune, rouge. Ça m'est vite passé, puisqu'au bout d'un moment, c'est quand même assez redondant. Et du coup, voilà, ça a pris. J'ai pas vraiment fait attention, en fait. Ça a pris de plus en plus. Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est de participer vachement aux challenges de la communauté créative de l'illustration sur Instagram. C'est-à-dire, par exemple, il y a les challenges, j'imagine que tu connais peut-être le Inktober.
Oui, j'ai suivi le tien, en fait.
Ouais, bah voilà. Qui consiste, du coup, pour les personnes qui ne savent pas, à dessiner, à poster un dessin par jour en octobre selon une liste de thèmes. Et du coup, ça forge vachement, ça force à être... à sortir des trucs même si t'es pas sûr. Et en fait je crois que le secret qui n'est pas un secret, c'est que sur les réseaux sociaux il faut être présent, quoi, il faut être active et voilà, juste discuter avec les gens, etc. Et c'est un peu ce que j'ai fait, c'est un peu ce qui a commencé à me plaire. Et en fait très vite ouais, ça a pris beaucoup de place et j'ai vite candidaté un jour pour un salon d'illustration où je pouvais vendre mes illustrations. Et en fait, j'ai été sélectionnée contre toute attente. Je pense que j'avais genre 1000 abonnés peut-être, tu vois, un truc comme ça. Ou ouais, je crois. Ou 900, genre.
Au tout début.
Je crois que c'est ça, ouais, au tout début. Et en fait, du coup, quand ils m'ont dit oui, du coup, je me suis retrouvée à imprimer tous mes dessins dans la panique, à découper des stickers à la main en forme de soleil hyper compliqué pour vendre tout ça, quoi. Donc, je suis arrivée, j'avais trois trucs sur une petite table et j'étais super contente.
Comme quand on vend
contente.
Des coquillages quand on est petit, ouais, à voilà. Nos parents. Genre
mais là, c'était ça, quoi. C'était entre le stand de coquillages et le stand de limonade, mais avec des illustrations imprimées, voilà, où j'avais mis tout mon argent pour imprimer des illus. Et c'était super chouette de participer à ça parce que j'étais à côté d'illustrateurs, illustratrices que j'adorais. J'étais hyper flattée. Et du coup, en fait, ça m'a vachement boostée pour la suite. J'ai continué vendre des illustrations sur mon Instagram. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par un média qui s'appelle Curieux, Curieux Live sur Instagram, et qui faisait de la vulgarisation scientifique et qui m'ont demandé si j'étais partante pour faire des petites bandes dessinées sur des sujets. Et moi, j'avais jamais fait de bande dessinée. Enfin, j'en avais fait quand j'avais 8 ans, quoi. Mais sinon, c'était pas du tout un truc qui me revenait parce que j'avais l'impression que je savais pas du tout comment raconter des histoires, etc. Et j'ai accepté parce que c'était un travail payé. Et j'étais en mode, bah, trop génial. On vient me chercher pour un premier travail d'illustration. C'est trop cool. Et j'ai accepté. Et en l'occurrence, le premier sujet, c'était sur les règles.
Bah oui, je m'en rappelle. Voilà, bien sûr, mais qui avait cartonné. Si vous écoutez ce podcast, vous l'avez peut-être même déjà vu. C'était incroyable. C'était sur 10 slides.
Ouais, 10 slides, c'est ça.
Donc, c'est une BD format Instagram.
Format Instagram, donc format carré. T'as que 10 slides, c'est la contrainte maximum. Et il fallait faire quelque chose, donc voilà, tout en calant des informations scientifiques, puisque c'était un média de vulgarisation scientifique. Mais j'avais quand même le droit de mettre une petite touche féministe, quoi. C'était aussi ça qui les intéressait, parce qu'ils avaient repéré ça dans mon travail. Bon, le premier jet que j'ai fait, ils m'ont clairement dit « Non, mais c'est beaucoup trop politique, ça va pas être possible, ça va trop loin, les gens, ils vont pas supporter. » Donc, ok, on va recommencer, parce que j'étais évidemment super énervée, parce que même sur les règles, il y a plein de choses à dire sur le traitement de cette situation qui touche quand même la moitié de la population.
Exactement.
Et du coup, voilà, j'ai fait ça et ça a super cartonné et j'en ai fait plusieurs avec eux par la suite sur les SPM, donc le syndrome prémenstruel, la pilule, enfin la contraception de façon générale, etc. Ça m'a vachement plu de faire ça. C'est assez dingue parce que j'aurais jamais pensé à faire ça toute seule. J'aurais jamais
de
faire de la BD toute seule. Enfin, j'aurais pas osé quoi. Et en fait, c'est eux qui m'ont mis sur les rails. De faire ça et du coup par la suite j'ai commencé à garder ce format là de bande dessinée en 10 slides sur Instagram mais avec les sujets que moi je voulais et du coup ça c'était l'année dernière et pendant le premier confinement ça m'a permis d'en faire vachement, j'ai fait 3-4 BD je crois à cette période là et en fait c'est assez dingue parce que ça a cartonné quoi sur Instagram, ça a complètement explosé, les gens le partageaient à gogo en story
à gogo,
du coup,
j'adore cette phrase. J'allais y venir, mais le premier confinement pour toi, je pense que ça, il me semble que ça a été quand même un moment où tu as été hyper productive.
Mm.
C'est-à-dire que tu es déjà bien occupée dans la vie en général, mais le fait d'être enfermée, alors je dévoile pas un truc immense, mais je pense qu'avec Léo, vous êtes des anciens étudiants, c'est très frais, donc vous avez un tout petit appart où, voilà, où tu te marches vite dessus. Donc être confinée à deux ben, quand c'est une pandémie mondiale, bon, ben, ça peut être compliqué. Et vous vous en êtes vachement servi pour transformer le lycée. Quoi. Et toi, tu as été hyper productive. Et
ouais, carrément.
T'as fait tes trucs à toi et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que t'as un peu explosé à cette période-là aussi. Ton compte, il s'est envolé. Il a dit bisous, je m'envole.
Il a dit salut, bisous, je m'envole. Ouais, en fait, ce qui est dingue, c'est que moi, j'étais tellement contente de plus avoir allé à l'école, puisque ça me saoulait l'école de graphisme à un point. Là, c'était donc la dernière année et j'avais plus du tout envie d'y aller. Enfin, c'était vraiment fatigant. J'étais en mode, oh, mais j'ai plus à y aller. Je peux faire ce que je veux de mes journées. Ok, j'ai un zoom de 8 à 9 pour faire un taf sur les produits tripiers, tu vois. Mais ensuite, toute la journée, si je veux, je dessine et personne ne va rien me dire.
On peut revenir aux produits tripiers.
Lâcher cette information sensible. Ouais.
Je me rappelle, je crois, quand tu nous l'avais raconté, mais c'est quoi cette histoire?
Bah, c'est tout simplement qu'on avait un taf de com où
ah
on devait faire une publicité pour les produits Tripier, enfin toute une identité visuelle en fait pour promouvoir les produits Tripier. Donc
c'est comme les produits laitiers mais pour
les tripes, donc pour les abats, les rognons là, les abats, tous ces trucs là quoi. Donc moi j'étais ravie quoi, j'ai vraiment ma place ici, c'est super.
C'est bon, en plus toi tu ne manges pas de viande.
Ouais, c'était super chouette quoi.
C'était top. D'accord.
C'était top.
On revient au premier confinement, oui. Donc du coup ton compte s'envole. Tu continues de faire de bosser pour Curieux, donc les BD. Elle aussi s'envole. Et ton style commence un petit peu à changer. Donc, il y a plus de couleurs. On est aussi sur un style un peu différent. En fait, ce n'est pas que le style est différent. Je pense qu'il est juste qu'il est un peu plus étoffé.
Ouais, il s'affirme carrément, ouais.
Plus de messages autour des dessins. Alors, pas que, hein, je tiens à le préciser, tous les dessins d'Ève n'ont pas forcément une vocation à parler de féminisme ou d'autres sujets. Mais il y en a certains. J'ai l'impression que tu alternes un peu entre... des trucs un peu à toi perso, des trucs que tu as envie de faire, et des fois quand tu as envie de faire passer un message. Mais globalement, le monde, ton univers se tourne autour du féminisme. Et d'où ça vient ces convictions-là? Est-ce que ça a toujours été en toi, ou est-ce que c'est un peu arrivé avec, en grandissant, en se forgeant des opinions
J'ai toujours un peu du mal à répondre à ça, puisque j'ai pas de souvenir d'éléments déclencheurs. Pour moi, ça a toujours été là, c'est juste que ça s'est affiné et qu'il y a des mots qui ont fini par arriver dessus. Et derrière, la théorie, quand j'ai commencé à lire dessus, etc. Donc tout ça, c'est complexifié. Mais par contre, j'ai l'impression que j'ai pas eu de déclic. J'ai l'impression que ça a toujours été là et que c'était... Voilà, c'était pour moi dès le début. Après, dès le début. Je pense que quand j'essaye d'y réfléchir, je me vois bien fin collège, lycée, commencer à être vraiment un peu énervée quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui n'allaient pas, je trouve. Alors que bon, ça, c'était forcément moins prononcé. Enfin, je le voyais forcément moins avant, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs, quoi. C'est que vraiment...
Toi, c'est venu petit à petit. Il n'y a pas un jour où tu t'es dit, putain, là, ça ne va plus. Il y a un truc qui est chez moi sur lequel je n'arrive pas à mettre des mots. Toi, c'est fait progressivement. Je trouve que c'est plutôt ça, en fait. C'est arrivé en s'informant aussi, je pense. Parce que bon, quand même...
Moi, je crois que les deux existent, hein, vraiment. Qu'il y a des personnes qui ont des gros chocs, des grosses épiphanies féministes. Et je trouve ça trop chouette aussi, hein, mais moi, je pense que ça a toujours été là. Moi, ma mère a toujours été féministe, sans pour autant m'en parler spécialement. Ouais, dans la façon dont elle s'est occupée de moi, petite, etc. Ça s'est forcément transmis d'une façon ou d'une autre. En tout cas, dans le rapport aux autres, quoi. Dans
oui,
le...
ça vient pas de nulle part. Oui, je pense que ça fait... Enfin, pour moi, dans l'éducation joue un gros rôle dans, je veux dire, les valeurs féministes. Enfin, je pense que moi, ma mère, par exemple, n'a jamais été vraiment féministe. Je pense qu'elle l'est sans le savoir, par exemple.
Oui.
D'avoir élevé ses enfants seule, en ayant deux jobs, en voulant autant faire sa carrière qu'éduquer ses enfants, que voir ses copines, que voyager. En fait, je pense qu'elle était féministe sans le savoir.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais c'est juste ce qu'il fallait que je fasse. Alors que pour nous, on se dit, c'est quand même des badass, les mamans. Je pense que pour certains, ça peut venir effectivement de leur éducation, ou si c'est pas de leur éducation, de voir juste leurs parents évoluer dans. Il faut dire qu'on vit pas aujourd'hui dans le même monde que nos parents à 30 ans. Enfin, toi, t'es jeune encore, t'as 22 ans, mais genre, j'arrête pas de le dire, mais nos parents à 30 ans, moi qui ai plus de 30 ans, c'était pas la même vie.
Ah oui,
ils avaient déjà une Saxo, des enfants, une Kangoo, voilà, une maison. Donc, on vit pas dans le même monde, et je pense que du coup, on a peut-être presque plus le temps de développer nos opinions.
Oui.
En fait, la vie nous rattrape un peu... Je vais pas faire de la philosophie de comptoir. Je pense que la vie nous rattrape un peu moins. Mais quand je dis moins, c'est pas genre on vit moins de trucs, pas du tout. On se tape quand même une sacrée période, mais j'ai l'impression qu'on a plus le choix de vouloir être qui on veut. On a moins cette épée de Damoclès, genre tu dois être banquier, médecin. J'ai l'impression qu'il y a plus de voies qui s'ouvrent aux jeunes.
Oui, mais tout simplement, je pense parce qu'en fait, on nous montre les possibilités. Enfin, oui. Qu'il y a des exemples, en fait.
Ouais.
Il y a des exemples qui n'étaient pas forcément là avant, et encore plus pour les femmes, quoi.
Ah, c'est ça, j'en suis persuadée, et c'est pour ça que je pense que c'est important de parler avec toi, même si on n'a pas le même âge, parce que peut-être que si t'avais vécu, je sais pas, 30 ans ou 10, 20 ans en arrière, t'aurais peut-être pas pu faire ce que... Et moi non plus.
Ah, mais c'est sûr.
Tu vois, on gravite toutes les deux dans un milieu où il y a une majorité d'hommes. Je pense que dans l'illustration, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. J'ai l'impression que maintenant, ça y est, il y a beaucoup plus d'illustratrices et d'autrices. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en fait entre il y a 10 ans, 20 ans et maintenant.
Je ne connais pas exactement bien comment ça se passe pour l'illustration et comment ça s'est passé. Mais par exemple, si je transpose ça aux auteurs-autrices de BD, je sais que y a une écrasante majorité de célébrités, enfin d'auteurs masculins et tout, etc. Et je pense que c'est vachement lié au fait qu'on considère que bah, les artistes sont souvent les vrais artistes, les grands artistes sont souvent des hommes, etc. Et que pour se lancer dans la bande dessinée ou dans l'illustration et en vivre, etc., c'est un challenge en plus d'être une femme, puisque ta valeur ne va pas forcément être la même, ça ne va pas être reconnu pareil. Enfin, le travail des hommes est d'office considéré comme plus qualitatif. Enfin, ça paraît un peu grossier de dire ça comme ça, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que quand t'es une femme et que tu bosses dans l'art, tu dois prouver deux fois plus, enfin, comme dans beaucoup de métiers. Enfin, par exemple, c'est quelque chose qui se voit très bien avec le fait que les œuvres, si on prend par exemple l'univers des galeries, donc je parle pas de la bande dessinée, mais l'univers des galeries, les œuvres des femmes qui se vendent le plus cher dans le monde de l'art contemporain restent beaucoup, beaucoup moins chères que les œuvres des hommes qui se vendent le plus cher.
Et je précise que c'est pas ce que tu penses, c'est une réalité. Ah non, ça, c'est des faits. C'est factuel.
C'est factuel. C'est que quand même, voilà, le travail des femmes est quand même encore sous-estimé et par exemple financièrement aussi, enfin en termes d'argent, de ce que ça représente, parce que c'est un marché, hein, le milieu Bien de sûr. L'art, etc. Ça ne représente pas le même poids économique, quoi.
Donc les artistes masculins sont mieux payés que les femmes.
Oui.
Et bah c'est peut-être je sais pas, peut-être c'est eux qui sont surestimés aussi, merde.
Ah bah certains. Hein,
Et donc dans le monde de l'illustration, c'est un peu pareil encore.
Moi, j'ai pas cette sensation parce que en fait, je ne connais que des illustratrices. Mais oui. Ça, c'est vraiment ma sphère Instagram, illustratrice féministe ou pas d'ailleurs. Mais je suis quasiment, enfin, je me suis bien rendu compte que malgré moi, hein, c'est pas du tout volontaire, mais que je suis principalement des femmes en fait sur Instagram et que quand même l'illustration, grâce à ce réseau social, permet un bon, voilà, où tu as besoin de personne en fait pour te faire remarquer, à part de toi-même, de savoir comment utiliser la plateforme. Et du coup, il y a beaucoup d'illustratrices qui marchent très très bien sur Instagram. Et du coup, en fait, ce réseau social-là, bah, je pense, profite aux femmes artistes d'une certaine façon, puisque en fait, il n'y a plus d'obstacles, quoi. Il n'y a pas les obstacles habituels.
Je ne sais plus si ces chiffres sont très exacts encore, mais il y a vachement plus de femmes qui percent sur Instagram que d'hommes. Donc là, c'est un domaine où les femmes sont beaucoup plus exposées sur Instagram, pour plein de raisons et pas forcément les bonnes.
Bien sûr.
Mais j'ai l'impression que c'est quand même un terrain de jeu où les femmes peuvent faire un peu ce qui leur semble bien, que ce soit au niveau de l'art, de la chanson, peu importe en fait. Donc je trouve que ça m'étonne pas qu'aujourd'hui les illustratrices se mettent sur Instagram. C'est une super plateforme en tout cas pour dévoiler son art, puis-je dire. Est-ce que tu as toujours suivi, même au moment où tu avais ton compte où il y avait 150 personnes, tu connaissais déjà des illustratrices qui te plaisaient, t'en suivais déjà pas mal, et du coup vous avez formé peut-être une espèce de gang sans le vouloir, tu vois.
On a grave formé un gang, oui, oui, c'est vrai. Bah, en fait, oui, quand j'ai commencé, il y avait plein d'illustratrices que j'admirais énormément, etc. Et petit à petit, plus je développais mes illustrations, mon travail, et plus c'était affirmé, et plus c'était en fait bien, enfin, plus c'était qualitatif, plus toutes ces nanas que j'admirais ont commencé à suivre mon travail et tout, donc j'étais trop saucée, quoi.
Bah ouais,
et
ça
en fait, ça fait bizarre, mais ça, c'est un super signe de reconnaissance, en fait, enfin, que tes pairs, enfin, PAIRS, je veux dire, soutiennent ton travail et trouvent ça cool, c'est trop génial, quoi. Et ça, du coup, ça m'a vachement aidée. Et oui, on forme carrément un gang aujourd'hui parce que on se donne grave plein de conseils. On a un syndic.
On a un arbre de Noël.
Les clients relous, on se tient au courant et tout. Les clients qui payent pas, tout ça. Donc.
Ouais, vous avez formé un petit réseau pour vous soutenir quand vous avez, j'imagine, des questions aussi. Après, est-ce que t'es dans les plus jeunes?
Il y en a plusieurs de mon âge, j'ai l'impression que c'est vachement, ouais, c'est 20-35, quoi, en gros.
Ok, c'est vraiment jeune comme groupe quand même.
Bah oui, mais en fait, comme c'est des illustratrices qui sont vachement sur Instagram, ouais. C'est vrai que c'est une génération, je pense que des illustratrices de 40 ans, 45 ans, elles ont plus du mal avec l'utilisation de ce réseau, quoi.
Elles sont moins présentes.
Mais c'est moins inné, non, pas que ce soit inné, mais c'est moins facile quand t'as moins grandi avec, évidemment.
Oui, on a grandi avec. Oui, c'est vrai. Des fois, j'oublie. Mais... Et ces derniers temps, du coup, as-tu eu des projets qui sortent un peu d'Instagram ?
Oui, et je suis très contente de ça. C'est vraiment... Je suis très contente que ça arrive enfin. J'ai sorti un bouquin avec un collectif féministe, donc... qui est sorti chez Librio, donc de chez Flammarion, donc qui s'appelle Guide de survie au sexisme ordinaire. Et en fait, on a été contacté par une super éditrice avec 17 autres du coup féministes pour chacune choisir une petite phrase de qui relève du sexisme ordinaire, les petites réflexions de merde là de Jean-Michel, pour les démonter avec nos arguments, avec humour et en mon cas dessin.
D'accord.
Donc j'ai fait une mini BD qui est rentrée dans cet ouvrage-là collectif, et c'était vraiment une super expérience de faire ça, puisque j'étais super honorée. Là, tout d'un coup, une nouvelle fois, comme avec les illustratrices, je me suis retrouvée à côté de plein de féministes que j'admirais énormément. Donc c'était assez fou, quoi.
Que t'as déjà rencontré ou pas forcément ?
Que non, j'avais jamais rencontré, mais que voilà, dont je connaissais le travail, que je suivais depuis des années, enfin vraiment des... Enfin, des gros noms du féminisme,
des pontes,
quoi.
Des pontes du féminisme.
Des pontesses.
Des pontesses, ouais, c'est vrai. Pardon, j'ai dit pontes, mais en fait, j'ai pas d'équivalent.
Je sais pas si ça existe en pontesse. Moi, je mets S partout maintenant, c'est bon.
Des comtesses. Revenons un petit peu à la base de la base. Pour toi, c'est quoi le sexisme ordinaire ?
Le sexisme ordinaire, je pense que ça se définit par tout un tas de petites réflexions où tu te dis non mais ça va, ça c'est pas du sexisme, c'est juste il est un peu relou, machin. C'est les petits trucs qui n'ont pas l'air mais qui en fait si, ils sont complètement du sexisme. Par exemple, tu vois, les phrases typiques, bah t'as tes règles ou quoi, machin, homme était hystérique, je sais pas, moi, dans la phrase que j'ai fait pour le bouquin, c'était c'est un truc de fille. Mais ça paraît totalement voilà, innocent. Mais en fait, c'est pas du tout innocent, puisqu'en fait, c'est une séparation de ce qui devrait être féminin ou pas, et de, enfin voilà, en fait, un jugement de valeur
péjoratif.
En fait, très péjoratif, puisque quand on dit c'est un truc de fille, on veut dire c'est un truc nul. Donc en fait, c'est pas du tout innocent.
Ou un truc qui est pas pour les garçons, alors qu'il y a certains garçons qui seraient très contents.
Voilà, pour leur dire, bah non, c'est pas pour toi, attends, repose cette Barbie, voyons, parce que sinon, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Je ne l'imagine même pas, quoi.
Oh, mon Dieu.
Et du coup, cette farandole de phrases qui, en fait, bah voilà, porte des idées qui sont sexistes,
et
tout simplement.
Et qui ne font pas avancer le schmilblick. Il y a une phrase qui m'énerve un peu en ce moment, et peut-être que tu peux m'éclairer là-dessus, parce que je ne comprends pas pourquoi elle m'énerve. En ce moment, j'entends beaucoup trop le « ça libère la parole ». Et ça m'agace un peu parce que je me dis « attendez, ça fait quand même des années ». Alors généralement, c'est « ça libère la parole » autour des femmes, la condition des femmes ou les violences sexuelles, par exemple. Mmh. Et souvent, on l'utilise pour ça. Et je me dis « mais c'est quand même un peu dégueulasse ». Parce qu'il y a des gens qui se battent depuis si longtemps pour faire entendre leur voix. Et pourquoi ça libérer la parole maintenant alors qu'ils font ça depuis... Donc ça m'agace un peu. Est-ce que tu peux peut-être...
Bien sûr. Enfin, je n'ai pas la réponse
non,
ultime,
bah...
la solution, mais je
comprends pourquoi...
Je peux
peut-être juste mes règles, écoute, je ne sais
pas.
Ah,
ça doit être ça, je pense. Non, mais en fait, je comprends très bien ce qui est énervant avec cette phrase, parce que, en fait, MeToo, c'était quand même en 2017,
ouais.
Donc ça fait 4 ans... Attends, ça fait combien ? Ouais, c'est ça, 5 ans, bientôt ? Non, n'importe quoi, on est en 2021. Donc 4 ans.
Ah, ça fait pas plus ?
Bah, 2017, 2020, ça fait 4 ans, du coup, 2021. Ouais, j'ai fait S, ouais. T'imagines, ça fait 4 ans, en fait, qu'on nous dit « Ah, c'est génial, la parole se libère, ah là là,
ah,
c'est vraiment top. »
Mais
en fait...
C'est pour ça que j'en ai marre.
Genre, ça a fait 4 ans, en fait. Peut-être que là, il est temps de passer à l'étape d'après, puisqu'en fait, bon, déjà, non seulement, en fait, les femmes, elles parlent depuis toujours, les femmes et toutes les personnes qui vivent des discriminations, en fait, ont toujours parlé. C'est pas comme si on était muselés avant, je veux dire. Jusque-là, pour la première fois, on est bien obligé de nous écouter, en fait, parce qu'on fait tellement de bruit que voilà. Et en fait, bah, je sais qu'il y a pas mal de féministes qui commencent à en avoir marre de cette expression, la libération de la parole, puisqu'en fait, non, mais attends, là, en fait. C'est bon, la parole est libérée, en fait, il s'agit de l'écoute maintenant et
oui,
de la réception.
Exactement.
Genre, ça suffit de brandir partout cette idée de libération de la parole, alors qu'en fait, bah, tout le monde parle depuis bien avant MeToo, et juste, bah, il est enfin temps d'être écouté, quoi.
Est-ce qu'il y a des gens que tu admires ? Alors, quels sont les artistes ? Et c'est pas forcément que des femmes que t'aimes bien et qui te, voilà, te procurent quelque chose et qui peut-être ont changé ton travail, ta vision de la vie.
Alors moi, c'est quand même une majorité de femmes. Hein.
Ouais.
C'est pas choisi d'ailleurs, mais c'est juste que bon, voilà, quand même les premières concernées et celles qui parlent le plus de féminisme, c'est quand même les femmes. Moi, une des personnes que j'admire le plus et qui m'a vraiment accompagnée, je pense, sur les 5 dernières années, je dis ça comme si je la connaissais personnellement, I wish, mais non, c'est Lorraine Bastide, la créatrice du podcast La Poudre, et pas seulement créatrice du podcast La Poudre, autrice, journaliste.
On l'adore. Moi, je la suis sur Instagram.
Mais en fait, elle elle est incroyable et je suis très très reconnaissante du travail qu'elle a fait parce qu'en fait j'ai vraiment le sentiment d'avoir évolué et grandi en même temps que son projet La Poudre par exemple, qui est aujourd'hui beaucoup plus militant qu'au tout début, même si c'était déjà féministe etc. au début, puisque l'idée du projet c'était de donner la voix à des femmes et que rien que ça c'est politique en fait. Dans une société où les femmes ont un temps de parole ridicule à la radio et à la télévision par rapport aux hommes, bah, en fait leur créer un espace pour qu'elles parlent, bah, c'est déjà politique. Mais bon bref, tout son travail a évolué et est de plus en plus militant et
prononcé. Elle a évolué avec son contenu aussi. Hein.
C'est ça. Et puis avec tout ce qui s'est passé en 4 ans, là. Et du coup, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et donc, j'aime énormément le travail et qui m'a vraiment forgée, quoi. Après, évidemment, il y a Pénélope Bagieu, donc qui est à la croisée d'illustrations et de féminisme.
Que
donc,
des rockstars dans cette liste.
Bah ouais.
Pénélope Bagieu, pour moi, ça a été vraiment l'entrée dans l'illustration, en tout cas pas que féministe, parce qu'elle a pas fait que ça, mais pour moi ça a été un peu la porte d'entrée et j'aime vraiment beaucoup son travail. Et je trouve que d'un certain côté t'es un peu dans la lignée de ce truc d'éducation, vulgarisation, très bienveillant. Il y a ce truc là que je retrouve chez toi et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Enfin je veux dire c'est comme ça qu'il faut prendre le problème.
Bah c'est sûr, c'est une énorme inspiration. Moi, je suis très, enfin, je vais pas du tout renier parce que c'est complètement mes racines et ma très très grosse inspiration, tout son travail. Et effectivement, donc elle est très connue pour Les Culottés notamment, et puis mais tout le reste de son travail est génial aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est une des portes d'entrée pour moi aussi de me dire, en fait, on peut carrément parler de féminisme en illustration, enfin en dessinant, et ça peut être un super moyen. Et en fait, ça peut être du coup extrêmement accessible pour beaucoup de personnes.
Et ludique, ouais. Ouais, bien
ludique,
sûr.
Parce que, bon, évidemment, les podcasts, c'est un très bon moyen, je pense aussi, d'accès au féminisme. Mais par exemple, moi, j'ai aussi plein d'autrices que j'aime énormément. Je pense par exemple à Mona Chollet, qui a fait Sorcière, Beauté Fatale, etc. Et tout ça, c'est des livres qui sont absolument géniaux. Mais je pense et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément l'envie de lire un livre de
150 pages. Peut-être que c'est moins facile.
C'est moins facile. Enfin, surtout, moi, je parle du point de vue de quelqu'un qui a quand même un peu du mal à lire, aussi fou que ça puisse paraître. Mais enfin, il faut que je m'y mette, quoi. C'est terrible. Ça, c'est quand même le petit problème d'Instagram, c'est que ça te prend un temps dingue. Et bon, bref, voilà, tout ça pour dire que je comprends que tout le monde n'ait pas la force de se faire une énorme bibliothèque féministe et de prendre les gros ouvrages qui sont absolument géniaux.
C'est un peu mon problème, tu vois, il y a plein de livres que je sais que je dois lire, je les ai pas, j'ai envie de les avoir, mais c'est difficile, je vais avoir tendance à plus effectivement me diriger vers des trucs plus ludiques et qui sont, j'ai l'impression, plus à ma portée, non pas que voilà, je sache pas lire, mais j'ai envie, en tout cas, d'avoir les bons outils pour me faire une opinion, tu vois, il faut s'informer. Et des fois, j'ai du mal à choisir comment m'informer. J'ai l'impression que c'est tellement vaste et que c'est tellement gros que des fois, je me dis, c'est trop. C'est trop gros.
Bien sûr.
Donc, je me dis, c'est limite, c'est un truc que je laisse pour plus tard. Donc, des fois, je vais avoir tendance à aller peut-être plus sur Instagram. Même des fois, des mèmes, tu vois. Genre, je suis abonnée à une fille qui tient un compte...
même pour Cookie
Féministe. Et donc, du coup, j'ai tendance des fois à regarder son compte en mode, ah, voilà, là, ça va. Là,
mais
je suis bien.
Non, mais c'est super chouette. Mais ça, c'est quand même aussi la force d'Instagram. C'est qu'il y a une telle vulgarisation de contenu féministe que ça le rend accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est absolument génial. Et c'est aussi, la force des podcasts. Moi, je sais que j'adore écouter les podcasts en travaillant. Et c'est pour ça que c'est trop cool. À la fois, voilà, tous ces nouveaux médias qui ne sont pas le livre traditionnel, qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas la concentration de lire 150 pages, 200 pages. C'est pas du tout évident, quoi. Et c'est aussi, d'ailleurs, très élitiste de considérer que c'est ça, le vrai féminisme, la vraie information, alors qu'il y a quand même énormément de choses, énormément de contenu aujourd'hui. Enfin, typiquement, moi, c'est ce que je m'efforce de faire sur mon compte, en fait, c'est de faire des bandes dessinées qui vulgarisent des sujets féministes parce que, justement, c'est plus accessible et qu'il faut absolument rendre ça accessible. Enfin, il n'est pas question de faire du féminisme quelque chose d'élitiste, quoi.
Est-ce qu'on peut faire peut-être un mini bilan de comment la femme était vue Pourquoi aujourd'hui il y a cette notion de féminisme ? Parce que la femme, elle a toujours été considérée différemment d'un homme et qu'aujourd'hui on en arrive là. En fait, est-ce qu'on peut juste faire un mini bilan de pourquoi aujourd'hui les femmes, elles en ont ras le cul, quoi ?
Bah, je pense qu'il y a une domination historique et ancestrale des hommes sur les femmes. Moi, mon analyse, je dirais que je pense qu'il y a une domination qui s'est créée à partir du moment où il y a ce déséquilibre de les femmes peuvent enfanter et donc ont un pouvoir quand même qui est important. Et du coup, pour équilibrer ce pouvoir, il y a la domination masculine qui s'est instaurée pour se sentir plus sur un pied d'égalité par rapport à ce pouvoir qu'ont les femmes quand même de pouvoir enfanter. Qui est quand même c'est pas rien. Et du coup, bon, bah là, voilà, la domination masculine, elle est dans toutes les sociétés, de la Grèce à aujourd'hui, quoi, de la Rome antique, la Grèce antique. Et évidemment que l'histoire a évolué et tout. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, en fait, les périodes qu'on considère un peu les plus sombres de l'histoire, les périodes un peu obscures, genre, dans le Moyen-Âge, qui est toujours vécu comme un truc hyper dark et tout, bah en fait, on se rend compte que c'est les périodes pendant lesquelles les femmes avaient le plus de droits et étaient le plus libres. En fait, et que toutes les périodes, au contraire, comme les Lumières, la Révolution industrielle, toutes ces périodes qu'on considère comme des grandes avancées,
où on a l'impression qu'elles sont vachement plus mises en avant,
et ben c'est des périodes où, en fait, où les droits des femmes ont reculé.
D'accord.
Donc en fait, quand même, les droits des femmes, ça a fait un peu yo-yo quand même dans l'histoire. Donc évidemment, ça progresse et ça a avancé. Il y a eu des on parle de vagues du féminisme, de la première vague, la seconde vague, la troisième vague, etc. Donc avec le droit de vote, et puis ensuite l'arrivée de la contraception et de l'IVG, etc. Tout ça, c'est des marqueurs du féminisme. Ce qui est assez dingue, c'est de voir qu'il y a quand même... il y a des avancées, mais il y a aussi des moments où ça recule. Et ça recule de façon très forte. Et ce qui est super intéressant, c'est de noter qu'après chaque avancée de mouvement féministe de droit pour les femmes, il y a ce qu'on appelle des retours de bâton, en anglais le backlash, des retours en arrière, en fait, sur ces progrès-là. Donc typiquement, il y en a eu après... les droits de vote, après que le droit de vote soit acquis, ensuite après l'acquisition de la pilule, les années 80, c'est sombre pour le droit des femmes, c'est Reagan aux États-Unis, etc. Donc toute la diabolisation des féministes à ce moment-là, etc.
Et surtout, je me rends compte que les droits des femmes peuvent reculer, mais les droits des hommes ne reculent jamais.
Non, jamais. En tout cas, pas en tant que classe sociale d'hommes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des droits humains qui reculent. Enfin, tu vois, je pense par exemple au truc genre à ce qui se passe à Dubaï, aux Ouïghours. Enfin, il y a quand même toujours des trucs gravissimes qui se passent. En termes d'humanité, mais les hommes en tant qu'hommes, en tant que classe sociale de hommes à l'opposé de femmes, non, on leur retire jamais des droits, en effet. Et c'est Simone Veil qui disait qu'il faut rester attentive toute notre vie durant, puisque à la moindre crise économique ou politique, les droits des femmes peuvent être remis en question.
Des fois, en tout cas, je sais pas si toi c'est pareil, des fois je suis un peu en colère. Alors voilà, ça c'est parce que j'ai mes règles, mais je suis un peu en colère parce que je me dis ça prend tellement de temps. Et quand est-ce que... En fait, c'est comme si t'étais dans un tunnel et tu savais pas quand est-ce que t'allais sortir. Est-ce qu'un jour, il y aura l'égalité homme-femme ? Est-ce que tu peux nous donner une petite lueur d'espoir ?
Moi, je pense qu'on prévoit ça pour... dans 2-3 ans, là. Ça devrait être bon, je pense.
Dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est bon.
En même temps que le déconfinement. Non, mais en fait... Mais du coup, quand tu dis que t'es en colère, tu veux dire que t'es en colère contre qui, du coup ?
Non, mais je suis pas en colère contre la vie. Je suis juste un peu en colère
moi, je suis en colère contre la vie.
Non, c'est pas vraiment de la colère. C'est pas le bon mot que j'aurais dû utiliser. En fait, je suis un peu frustrée parce que je me dis, est-ce que tout ça a une fin ? Est-ce que c'est une lutte qui va avoir un gain de cause ou pas ? Tu vois, c'est l'inconnu quand même. On est un peu dans une espèce de petite croisade. On veut juste l'égalité, tu vois. C'est un stade qui est quand même... c'est possible, hein.
C'est pas trop demandé, quoi.
On peut se dire que c'est possible. Est-ce que toi, tu vois un peu le bout du tunnel ? Tu sais pourquoi tu milites ? Tu sais pourquoi tous les jours tu fais ton art ? Parce qu'il participe à ça. Est-ce que ça, des fois, c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a des jours où on est un peu fatigué.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Je sais pas si je vois le bout du tunnel, parce que honnêtement, je pense pas vraiment que de mon vivant, on aura atteint l'égalité parfaite. Enfin, je veux dire, le patriarcat, donc le système d'oppression des femmes par les hommes et par toute la société, c'est quand même un truc qui est ancré depuis très longtemps. Donc, j'ai pas vraiment l'espoir, si tu veux, de l'exploser de mon vivant. Mais par contre, je vais absolument tout faire pour qu'on progresse, tu vois. Et bien je pense sûr. Que c'est l'idée de toutes les militantes féministes, et d'ailleurs militantes ou pas, de toutes les personnes qui se considèrent féministes, c'est de vouloir faire en sorte que ça avance au mieux, que nos conditions de vie s'améliorent, voilà, ne serait-ce que d'année en année, de génération en génération. Mais tu vois, les suffragettes dans les années 20, elles aussi, elles avaient envie d'arriver au bout du tunnel, bien quoi. Sûr. Et voilà, on est un siècle après et on en est toujours là, quoi. Donc,
mais sous une autre forme de combat, du coup. C'est un combat qui a évolué dans la manière de lutter, et je trouve ça cool parce qu'il y a maintenant plusieurs façons de vouloir s'investir dans la cause, et c'est ça que je trouve cool. Tu participes autant au progrès, entre guillemets, ne serait-ce que dans une discussion autour d'une table, quand t'es pas d'accord avec quelque chose parce que ben voilà, t'as ton opinion, tu t'es informé, il y a des trucs qui te semblent pas normal, qu'aujourd'hui même en militant même dans la rue, je trouve qu'il y a plusieurs façons. Pour moi c'est comme l'écologie. De toute façon, je vais le redire, l'écologie pour moi n'a pas lieu sans le féminisme. Et je trouve que tout est lié, et pour moi c'est comme l'écologie, t'es pas obligé de descendre dans la rue pour avoir une conscience écologique, et t'es pas obligée d'être activiste pour être féministe.
Bien sûr.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui osent pas se lancer parce qu'elles ont l'impression que peut-être des fois c'est tellement une grosse communauté, puis c'est très affirmé,
ouais, je vois très bien.
Que ça peut faire peur en fait.
Non, mais ça, en effet, je pense que c'est très important de le répéter, qu'il n'y a pas besoin d'être activiste pour être légitime en tant que féministe. Je veux dire, déjà, si tu as la force de confronter le tonton sexiste ou juste de dire « bah non, moi je suis pas d'accord » à un repas de famille, enfin, je veux dire, c'est déjà énorme en fait. Il n'y a pas de badge de féministe à acquérir, c'est pas parce que tu descends pas dans la rue... Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, pour qui c'est trop dur, voilà. Enfin, il y a plein de raisons, en fait.
Et qui n'osent pas aussi.
Qui n'osent pas, évidemment. Alors après, c'est sûr, ce truc d'activisme, j'imagine, je le sais très bien, parce que je suis aussi passée par là, que ça fait peur, parce qu'on a l'impression que c'est un truc très fermé, qu'il faut avoir plein de connaissances et tout, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des milieux activistes, notamment féministes, je pense qu'il y a des assos où, voilà, il y a peut-être un peu ce truc-là, ça, mais comme partout, en fait.
Et comme
un peu
dans n'importe quel...
Quand tu débarques, je sais pas, à la CGT, ou dans des, voilà, des
Mais même
des
dans l'écologie. Dans
bien
l'écologie,
sûr, mais l'écologie, c'est pareil. Et en fait, ça, c'est quelque chose, pour moi, contre lequel il faut absolument se battre. Cette idée d'élitisme, de pureté militante, tout ça, c'est hyper nocif, en fait, au final. Et moi, j'encourage absolument tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de s'investir dans une cause, de le faire à l'échelle à laquelle elles peuvent le faire, de trouver des personnes qui sont comme elles, puisqu'en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a quand même cette chance incroyable de pouvoir trouver des personnes avec qui, je sais pas, organiser des actions, même en ligne. Mine de rien, ouvrir une page Instagram féministe, c'est déjà énorme. C'est déjà super bien.
Oui, bien sûr. Et surtout, chacun va à son rythme. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai expérimenté, et je pense que tu es d'accord avec ça. C'est que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et ce serait très malsain que ça arrive du jour au lendemain, genre que tu t'intéresses pas forcément à ce sujet-là, ou que ça te touche pas forcément, que du jour au lendemain, tu deviennes hyper activiste,
bien
hyper agressif, peut-être même. Enfin, en fait, je pense que c'est plus sain d'y aller à son rythme et de se documenter, de voir un petit peu comment on sent et avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord, et surtout de rester dans quelque chose de très bienveillant, parce que pour moi, tout ce qui est activisme et militantisme, il faut quand même une petite notion de bienveillance, parce que c'est pas ton truc qui est mieux que les autres.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
C'est pas toujours facile d'être une grande famille, c'est pas la grande famille du cinéma.
Ah non, de toute façon, c'est comme la grande famille du cinéma, ça n'existe pas. Les féminismes sont aussi nombreux que sont les femmes, en fait. Enfin,
donc il y a pas plusieurs formes
et les minorités de genre, d'ailleurs, en fait, c'est-à-dire il y a plein de branches de féminisme différents, en fait. Et il y en a qui s'opposent de façon très très violente, en fait. En fait, il y a quand même trois sujets qui divisent les féministes depuis toujours, quoi.
Okay.
Donc les trois sujets, c'est en gros le voile,
oui.
les féministes qui considèrent que le voile, voilà, c'est une soumission, etc. Et les féministes qui vont dire, mais en fait, laissez les meufs faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent porter le voile, vous n'allez quand même pas leur arracher de la tête, quoi. Il y a donc la prostitution. Donc les féministes qui disent, il faut absolument abolir la prostitution. C'est une forme d'oppression, etc. Et les féministes qui ne sont pas anti-prostitution et qui disent, mais encore une fois, laissez faire les femmes. Si elles veulent, voilà, si elles veulent faire ça, qu'elles le fassent. Et le troisième sujet qui divise énormément aujourd'hui, c'est la fameuse théorie du genre qui n'existe pas, qui n'est pas une théorie du genre, c'est les questions autour de la question du genre et donc des transidentités, en fait. Et d'accord. Ça, c'est voilà,
ce
le troisième
un homme,
sujet.
Une femme.
Voilà. Je ne sais pas exactement de quand ça date, etc. Mais en fait, la question de est-ce que les questions queer et les questions féministes doivent se mélanger ou pas. Il y a des féministes qui considèrent que non, qu'il faut garder les choses bien séparées. Voilà, il y a des féministes qui excluent les personnes trans et qui considèrent qu'elles n'ont pas leur place au sein du féminisme, etc. Donc voilà, c'est des sujets très compliqués et très... Voilà, qui créent beaucoup de tensions. Donc en fait, il n'y a pas du tout une grande famille du féminisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi.
Alors c'est étonnant parce que du coup, tu viens quand même de citer trois trucs où moi, je me pose forcément la question de comment je me placerai. Il n'y en a aucune où je me dis j'aurais envie de militer contre. Je me dis que pour moi, en fait, c'est un peu la liberté de chacun. Donc là, on est en train plus de parler presque de liberté, que ce soit la liberté de son corps, de sa religion ou de son genre, entre guillemets. En fait, à partir du moment où tu es lié pour la même cause, il me semblerait, c'est peut-être naïf de ma part, qu'on puisse quand même s'entendre à lutter ensemble. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si ça divise autant ?
Bah, c'est compliqué. Hein. Enfin, je peux me lancer. Hein. Je peux me lancer là-dedans. Bah, pour la question de la prostitution, c'est historique et c'est depuis très longtemps qu'il y a ce débat-là au sein du féminisme. Donc, les abolitionnistes de la prostitution vont considérer que, en fait, personne ne choisit jamais vraiment de faire ce métier. Que si tu le choisis, c'est parce que tu es sous contrainte d'une façon ou d'une autre, soit sous emprise, soit sous contrainte financière, que c'est parce que t'es trop en galère que tu choisis de faire ça, et donc que c'est jamais vraiment un choix, et qu'en fait il faut l'interdire pour protéger toutes les femmes, etc. Et en face, voilà, il y a des féministes, ce qu'on appelle les féministes pro-sexe, qui disent, pro-travail du sexe, qui disent, mais en fait, si, il y a des personnes qui choisissent, et évidemment qu'il y a des personnes qui subissent, et il faut plutôt encadrer toute cette question par des lois pour les protéger justement, plutôt que en fait être dans le déni complet, parce qu'en fait, enfin, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est ça, notre société est dans le déni complet de l'existence du travail du sexe, alors que ça a toujours existé et ça existera toujours. Enfin, ça, c'est ma position. Donc c'est...
Et que c'est très, très mal. En plus, il y a des lois qui sont passées très étranges. Donc, oui. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, ça va être le client qui va être pénalisé, qui va être,
Oui, qui va avoir une amende.
Va avoir une amende ou qui va être arrêté. Et non plus, avant, c'était la prostituée qui allait partir au poste. Et là, c'est l'inverse maintenant. Donc, elles n'ont plus le droit d'avoir de clients.
Oui, et puis, en fait, sans aucune... Le vrai problème, après moi je suis pas vraiment experte de cette question là, mais le vrai problème c'est qu'il y a aucune sécurité en fait, c'est des non-citoyennes, elles ont aucun droit, aucune sécurité, enfin je veux dire il y a régulièrement voilà, des histoires de meurtres et tout, et en fait elles sont complètement effacées de la société. Et du coup, bon voilà, les féministes pro-travail du sexe et qui défendent le travail du sexe disent, la question c'est que évidemment qu'il y a des personnes qui ne font pas ce choix, qui ne le font pas de façon libre, et ces personnes-là, il faut les aider. Mais en attendant, il y a des personnes qui font ce choix. Et vous êtes qui pour leur dire « Non, t'as pas le droit de faire ça ». Donc, tu vois,
dans la maison,
hein ? Non, mais le chantier quoi, de discussion est énorme, quoi. Et en fait, il y a des personnes qui s'entendront jamais là-dessus.
Bien sûr.
Donc, c'est hyper compliqué. Et qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, quand tu te retrouves face à une femme qui voilà, a été traumatisée par le travail du sexe, qui est genre une rescapée, qui a vécu des trucs horribles et qui te dit « Bah, pour moi, ça devrait être aboli parce que ça a gâché ma vie ». Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué de lui tenir tête et dire « Non, mais il y a des gens qui font ce choix ». C'est que c'est trop compliqué, en fait, comme sujet.
Bien
c'est
sûr.
Trop difficile. Après, en fait, c'est le même mécanisme pour le voile. C'est qu'il y a des féministes qui vont te dire « C'est jamais un choix, c'est une forme de soumission, c'est imposé par le père, par l'oncle, par les patriarches de la famille, je sais pas quoi ».
Et pourtant, il y a tellement de témoignages de femmes qui disent « Moi, c'est mon choix personnel
bien sûr.
Parce que ça va avec ma religion, avec ce en quoi je crois ». Bon, je veux dire, c'est pas les témoignages qui manquent.
manque pourtant.
Mais malheureusement, ces témoignages, ils existent. On peut les trouver, je pense, assez facilement sur Internet. Mais par exemple, ils sont jamais majoritaires sur les plateaux télé. Enfin, le voile est systématiquement, se retrouve systématiquement sujet d'interventions télévisées où il n'y a que des mecs blancs et vieux qui se mettent à parler de est-ce qu'il faut interdire ou pas le voile dans les sorties scolaires ou que sais-je. Les personnes concernées ne sont jamais contactées pour intervenir dans les médias grand public. Donc moi je sais que j'ai déjà vu plein de vidéos sur Instagram de nanas qui disent bah voilà moi c'est mon choix, c'est ça correspond à ma religion etc et j'envisagerais pas ça autrement. Enfin c'est pour moi ça me paraît dingue qu'on me demande de l'enlever et tout, mais malheureusement elles sont encore très très peu écoutées parce que personne veut les écouter.
Mais pas au final ça arrange personne d'entendre ce genre de témoignage du coup.
Ça va à l'encontre de la laïcité à la française. Non mais ça c'est encore une grande hypocrisie parce que
en fait, on est la laïcité, nous on dénonce là aujourd'hui, on a gros sur la patate.
Non mais la laïcité en fait ça devrait être la liberté de faire exactement ce que tu veux et pas juste l'interdiction de tout signe religieux. Il y a une
couille.
Et je n'osais pas le dire mais voilà, il y a une couille dans le potage quand même. Hein.
Est-ce qu'il y a des expressions que tu as changées au fur et à mesure? Parce qu'on vient de dire couille dans le potage, et des fois, tu sais, il y a des expressions un peu qu'on sort hyper facilement. Genre, lui, là, elle a pas les couilles de faire ça. Je sais que moi, c'est bizarre, j'ai changé ce truc-là, mais j'ai plus tendance à dire, genre, elle a pas les ovaires. Mais en rigolant,
moi aussi, je le dis, ouais.
C'est plus marrant qu'autre chose. Mais c'est vrai que je m'aperçois qu'en fait, c'est aller avec un peu mon cheminement personnel féministe, entre guillemets. Bon, même pas entre guillemets, mais. Parce que du coup, je trouve ça plus cool. Pourquoi on dirait couille pour tout le monde, tu vois? Genre, si c'est ça, avoir du courage, bah ok.
Parce que
genre...
le courage, c'est un truc d'homme, bien sûr. Voyons, bien Léa,
Non, mais justement, c'est important. Je trouve cette expression, elle a vachement de sens parce qu'on l'utilise avec le mot couille, mais ça résonne un peu aujourd'hui parce que ça veut dire que si t'as pas de couille, t'as pas de courage.
Pas de courage, bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres expressions qui, du coup, te ont changé un petit peu, que t'as remanié avec le temps?
Bien sûr, je trouve que ça se ressent vachement dans les insultes aussi.
Ouais.
Les insultes sont tellement gangrénées d'insultes misogynes, etc. Et alors évidemment que le propre de l'insulte, c'est d'insulter, mais ça pose quand même question que toutes nos insultes, littéralement toutes, bonne chance pour en trouver qui ne le sont pas, reposent en fait sur des propos misogynes ou homophobes, mais quand c'est homophobe, c'est souvent misogyne derrière aussi en fait.
Oui, bien sûr, parce que c'est souvent ce truc, par exemple, de dire, je vais prendre un exemple. Tapette, c'est vraiment, pour moi, c'est le condensé de tout ce qui va pas. C'est genre vraiment, genre déjà, ça veut dire que t'as peur comme une fille, et en plus que tu serais homosexuelle. Mm-hmm. Donc ça combine quand même trois trucs complètement incroyables. Et il y a plein de mots comme ça qui maintenant me choquent et qui avant, je ne faisais pas forcément attention. Du coup, que déjà, je n'utilisais pas forcément. Ou même, j'utilisais peut-être pour rire comme ça, mais en fait ça me fait plus du tout rire aujourd'hui, où je fais un peu attention, mais j'ai l'impression que maintenant il faut faire quand même hyper attention. Je pense que ça a blessé beaucoup de monde et qu'aujourd'hui il faudrait un peu repenser la façon d'insulter les gens ou de pas insulter les gens, ce serait cool.
Non mais la façon d'insulter les gens sans que ce soit misogyne, moi je trouve que tout ce qui tourne autour du vocabulaire du caca, si tu veux, c'est parfait parce que en fait grosse merde, c'est bon quoi, tu vois.
C'est vrai.
Mais oui, en effet, c'est compliqué de se défaire de tous ces automatismes. Moi, je sais que c'est vachement... maintenant, mes oreilles sifflent quand j'entends quelqu'un dire fils de pute ou pute, tu vois. Ouais. Mais je deviens folle, en fait. J'ai mes règles, quoi.
Non,
mais
Fils
de pute, c'est quand même un enfer, quoi.
C'est quand même chaud.
Tu veux insulter quelqu'un, t'insultes sa daronne, quoi.
Puis c'est vieux. Enfin, c'est excessivement vieux comme insulte. Ah oui, c'est vrai que celui-là, il est gratiné aussi.
Celui-là, il est vraiment gratiné. Et en fait, moi, pute et fils de pute, je supporte plus ça. Et je sais que, du coup, déjà, j'ai dû le sortir de mon langage, tu vois. Et même putain, en fait. Mais en fait, putain,
Putain, c'est dur parce que...
Putain, c'est super dur.
C'est presque une ponctuation.
C'est une ponctuation.
Ouais.
C'est une ponctuation. Moi, j'ai trouvé purée à la place.
C'est vrai.
J'utilise
plus
purée, mais à une quantité extrême, du coup. Après, c'est pas du tout il faut censurer tout notre langage, machin. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le « on peut plus rien dire », machin,
Ah, ça aussi, ça m'énerve. Ça m'énerve.
Mais en fait, c'est pas une question de bien-pensance, c'est juste que on a un vocabulaire qui est misogyne et qui est sexiste. Et il est temps de s'en rendre compte et de changer les choses, puisqu'en fait, excusez-nous d'être là. Hein. Vous nous dites si on vous dérange, hein, la moitié de l'humanité, 52% de femmes en France, mais on est, je sais pas où on est. Genre,
Mais tu vois, je pense qu'il y a plein de gens comme moi, ou tu vois, ou par exemple le putain, on l'associe même plus,
oui, bien sûr,
au mot de départ. C'est-à-dire que pour moi, putain, c'est presque un mot qui n'a rien à voir. C'est presque un genre, ouais, une ponctuation, je l'associe pas du tout à la putain.
Oui, oui, bien sûr.
C'est plus, je sais pas, c'est presque un mot qui a pas de sens. Enfin, c'est plus une exclamation. Mais c'est vrai que du coup, ça m'embête d'utiliser ça alors que je fais pas. Ça veut dire que je fais pas trop attention. Pour moi, les mots ont du sens et ça veut dire que je fais pas attention à ce que je dis. Donc ça veut pas dire que je vais le rayer tout de suite, mais c'est vrai que j'aimerais bien à terme quand même trouver des alternatives. Mais effectivement, très très bon conseil de Eve. Tout ce qui est à base de caca marche très très bien.
C'est
comme,
super,
comme
ouais.
insulte ou comme exclamation, genre merde. Moi je le dis très souvent, ça passe très très bien, mais bon après il s'agit pas de,
bien sûr, c'est pas du tout voilà une obligation, sinon attention t'es vraiment une mauvaise personne si tu utilises putain quoi, parce que c'est, enfin évidemment c'est des automatismes qu'on a et qui sont super ancrés et c'est super difficile de s'en défaire. En tout cas je pense que voilà les plus faciles, enfin dans les insultes, les trucs qui pop tout le temps, les fils de pute, les enculés et tout, c'est quand même assez facile de voir en quoi ils posent problème quoi.
C'est vrai.
Et moi, ça me dérange énormément. Je peux plus utiliser ça, quoi.
Puis c'est souvent les plus violents, genre.
Oui.
Là, tu viens de dire fils de pute et enculé. Pour moi, c'est vraiment, c'est quand vraiment, il y a plus de limites. Si tu les dis, c'est que il s'est passé quelque chose. Et est-ce qu'il y a des situations qui aujourd'hui te choquent vraiment, genre, par exemple à la télévision ou des situations où on se dit mais what ? Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus, hein, ça arrive. Je vais prendre un exemple à la con. Eve, on peut se lancer. Je sais que moi, j'ai eu un gros débat avec mon entourage, par exemple, et un débat plutôt sain autour des femmes qui écrivent, par exemple, des bouquins pour parler de leur histoire ou qui parlent de violences sexuelles, etc. Et on n'était pas toujours d'accord. On n'était pas toujours d'accord sur... Alors déjà, il y a un problème de fond. C'est genre, tout le monde se prend pour l'inspecteur Gadget. Est-ce qu'elle dit la vérité ? Est-ce qu'elle ne dit pas la vérité ? Et pour moi, il y a quand même un vrai problème de déjà dire non, non, elle ne dit pas la vérité. Comme ça, au moins, c'est réglé le mec d'en face se défend mieux. Donc, voilà. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde, du coup, se fait juge. Il y a un peu un espèce de tribunal public qui se crée dans nos discussions sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me fait un peu peur en ce moment. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup d'histoires comme ça où les gens, du coup, prennent un avis. Il y a tout ce qui est Weinstein. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires d'artistes, de chanteurs, de comédiens. Voilà. Comme disent les journalistes, la parole se libère. Et je sais que moi, ça n'a pas toujours fait, dans mes discussions avec mes proches, ça n'a pas toujours fait l'unanimité.
Ouais.
Moi, j'ai toujours tendance, et je ne pense pas prêcher la bonne parole, j'ai toujours tendance à dire, je pense que c'est cool d'écouter ce qu'elle a à dire.
Bien sûr. En fait, le problème, c'est que dans ces histoires-là, il y a un véritable double standard, c'est-à-dire que les femmes sont présumées menteuses, alors que les hommes sont présumés innocents. Donc la présomption d'innocence, c'est bon que pour les mecs qui se font accuser, mais la présomption de mensonge, en fait, c'est systématique pour les femmes qui osent parler. Et il y a quand même un truc, moi, où je suis très énervée, c'est qu'il y a un manque d'honnêteté et de communication sur le fait que, en fait... Mais aucune femme n'a d'intérêt à mentir là-dessus. Cette espèce d'idée de « elle fait ça pour la fame, pour l'argent et tout », mais attends, mais qui est en train de vivre sa meilleure vie après avoir parlé de ce qui lui était arrivé ? En fait, ça te met dans une situation, tu te fais lyncher par tous les médias, par tous les réseaux sociaux, tu deviens
Et tu le sais,
enfin, tu te prends un nombre d'attaques quand tu oses parler sur ce qui s'est passé et que généralement tu pointes du doigt un homme qui est célèbre, qui est apprécié, etc. S'il est apprécié, mais voilà, on va te traiter de menteuse. Enfin, il y a des cas où c'est allé très très loin et où en fait bah, les meufs elles vivent pas du tout la belle vie. Et en plus, généralement, comme de toute façon les auteurs, les violeurs sont quand même rarement condamnés dans notre belle justice, en fait, bah, elles ne font pas non plus d'argent. Donc en fait, il n'y a ni la fame ni l'argent. Et ça, c'est quand même un vrai problème de systématiquement sortir ce mécanisme de « elle fait ça pour la fame, elle fait ça pour l'argent, elle ment ». Alors qu'en fait, si tu regardes un petit peu, Mais c'est pas du tout le cas, en fait.
Bah, je pense que c'est la solution de facilité, que ce soit homme ou femme, de se dire, si elle parle, c'est parce qu'elle a quelque chose à y gagner, certainement financièrement, j'imagine que c'est ça, ou la fame, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, si la personne sort un livre à ce moment-là, bon, bah là, tu peux être sûr qu'elle fait ça parce que son livre sort, et que... Bonjour, Jo. Et que, du coup, elle va en vendre plus. Mais si ça permet de vendre plus sur une histoire qui permettra d'ouvrir la voie à peut-être d'autres femmes et qui permettra de faire avancer les choses... Moi, j'en ai rien à faire. Enfin, je veux dire,
mais bien sûr.
Tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que ça crée des débats. Et notamment, je me rappelle quand... Bon, on va un peu loin. Mais quand le documentaire de DSK est sorti, il me semble que toi et moi, on en avait parlé. Y a forcément un moment où tu regardes le documentaire, t'es à fond. Je sais pas si tu l'as
vu. Je l'ai pas vu, moi, j'ai pas souhaité le voir.
Mais bon, tu connais les grosses lignes. Donc du coup, forcément, il y a un moment où tu te dis qui ment, qui ne ment pas. Et comme elle a accepté une compensation financière, du coup, tout le monde en a déduit que ce qu'elle disait, c'était pas vrai. Et moi, ça me gêne parce que je me dis, en fait, la fille ne peut plus avoir de vie. Hein, elle a dû déménager, elle a un enfant. Donc c'est quand même pas la fête du slip. Et quand bien même elle a de l'argent, ça ne lui rendra pas tout ce qui s'est passé, et etc. Après, je ne connais pas, mais bon, en tout cas, il est sorti de prison. Hein, il est en liberté, DSK. Donc même si on voilà, on connaîtra pas la vérité, pour moi, c'était plus simple de me dire, bien sûr qu'elle a... pas
menti. Mais c'est évident.
Mais c'est dur
qu'elle ait accepté l'argent. Enfin, je veux dire, la meuf, elle s'est retrouvée tout d'un coup au cœur du plus gros scandale politique français de l'année et sûrement des 5-10 dernières années. Ça a fait le tour du monde, c'est devenu une affaire internationale. Évidemment, elle a eu la présomption de menteuse, donc d'office, les gens ont dit mais elle ment et tout, etc. Je veux dire, c'était quand même avant MeToo, c'était quand même à une époque. Moi, je sais que j'étais assez jeune quand ça a commencé cette histoire et que... Oui, c'est quelque chose qui m'est venu aux oreilles, que sûrement elle mentait, tu vois. C'était quelque chose dans le... Voilà, c'était la normalité de dire ça. Et en fait, donc la meuf, elle a été calomniée de toutes parts. Elle s'en est pris plein la gueule. Et en fait, sa vie a été complètement ruinée. Mais vraiment, non seulement, enfin, je veux dire, elle s'est fait violer. Et en plus, sa vie a été ruinée. Donc, au bout d'un moment, elle était en mode... Bah en fait, ouais, bah peut-être que je vais accepter cet argent pour essayer de recommencer une vie et pour essayer de tourner la page, parce qu'en fait, cette histoire, enfin je veux dire, DSK s'est quand même retrouvée avec les plus gros avocats du monde, qui étaient, enfin c'est ça aussi, ce que notre justice elle est quand même biaisée à partir du moment où plus t'as d'argent, plus t'as de chances de t'en sortir parce que tu vas avoir des meilleurs avocats. Donc en fait, enfin évidemment qu'elle a accepté l'argent, je veux dire, moi je trouve pas du tout que c'est contradictoire avec le fait qu'elle a dit la vérité. C'est qu'en fait, elle s'est retrouvée dans une situation tellement horrible. Qu'elle s'est dit, bah, enfin, j'en sais rien, je dis, elle s'est dit comme si j'étais dans sa tête.
Moi, je pense, bah, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit dans, ce qu'elle dit dans le documentaire. Elle dit, j'ai accepté cet argent parce que j'avais
pour
besoin d'argent.
Pour tourner la page, quoi. Et parce qu'elle a besoin d'argent, parce qu'évidemment qu'elle a perdu son taf, évidemment que maintenant elle est connue dans le monde entier et que tout le monde sera associé son nom à ça. Donc, moi, je trouve que c'est malhonnête, en fait, de lui reprocher ça, parce que ça veut dire que les gens, ils imaginent pas du tout ce que ça fait de se retrouver dans une telle tornade.
Mais pour moi, c'est un exemple très très concret de voilà de ce qu'est aussi parfois la justice et pas qu'en France, de ce truc de qui ment, qui ne ment pas, alors que je pense que tu as dit les mots justes, c'est tellement compliqué de se lancer là-dedans que tu n'as tellement rien à gagner que se lancer, c'est déjà en soi un vrai acte de courage, parce qu'il en faut pour déclencher tout ça. Mais c'est vrai que souvent, ce débat revient de quand il se passe quelque chose, est-ce qu'elle ment, est-ce qu'il ment pas, tu vois, genre,
Je crois qu'un des gros problèmes, en fait, c'est que les gens ne savent pas comment ça se passe, la justice. Les gens ne savent pas comment ça se passe quand t'es une femme et que tu vas porter plainte pour viol dans un commissariat. Les gens ne savent pas comment ça se passe. La plupart des gens pensent quand même qu'on est dans un pays où bah, la justice est fonctionnelle, tout se passe bien, et que bah, si t'as rien à te reprocher et si tu mens pas, t'auras aucun souci. Mais sauf qu'en fait, quand tu as des amis à qui c'est arrivé, quand tu rencontres des personnes qui te font part de elles, voilà, ce qui s'est passé, de leurs témoignages, mais enfin, on commence à le savoir un peu quand même avec toute la médiatisation autour des féminicides, enfin je veux dire, le nombre de meufs qui ont porté plainte 15 fois, 16 fois, et que la police n'a rien fait, qu'à la fin, elles se sont fait assassiner. Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème avec notre justice, et avec d'autres sujets sûrement, mais avec le traitement des violences faites aux femmes, que, en fait, les gens sont pas conscients de c'est quoi la réalité, en fait, de porter plainte pour viol.
Alors moi, je n'ai pas connu ça, mais je pense que dans mon entourage, et je sais pas si toi c'est pareil, je ne connais aucune de mes amies proches à qui n'est pas un jour arrivé quelque chose. Ouais. Quand je dis quelque chose, ça va être très très vaste, ça va aller du harcèlement de rue. Et pour moi, aujourd'hui, c'est presque devenu genre une normalité. Mmh. Je me dis, c'est vrai que j'ai pas... Ou alors, je ne le sais pas, mais j'ai pas de copine à qui n'est rien arrivé. Et ça m'angoisse un peu, parce que je me dis, on vit avec ça comme si c'était un peu normal. Et que, ben, ça fait partie de nous. Ben oui, c'est cool, ça fait partie de nous, mais bon, on aimerait bien que ça s'arrête.
Hein, ouais, si possible.
Oui, si possible. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais... quelles sont les choses pour lesquelles tu milites le plus?
C'est difficile à dire parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein. Enfin, je suis un peu dans
Ouais, tu peux en dire plein.
Ouais, bah déjà, voilà, le dysfonctionnement de la justice par rapport aux violences faites aux femmes et aux minorités de genre, c'est quelque chose qui me pose un énorme problème. Enfin, je veux dire, on a quand même, voilà, un homme accusé de viol en tant que ministre de l'Intérieur et ça me pose un gros, gros problème.
Kikou Gérald.
Voilà, on lui fait des bisous. Il y a évidemment l'égalité salariale. Moi, je trouve que c'est quand même toujours sidérant, cette histoire, quand même. Enfin, je ne sais pas où on est, là, mais...
On est où, là ?
Il serait temps que ça cesse, quand même, enfin, que les choses s'améliorent. Il y a énormément de choses, en fait. Il y a la précarité menstruelle, par exemple. Enfin, c'est encore... En fait, il y a les enjeux qui tournent autour de la justice. Il y a les enjeux qui tournent autour de l'économie. En fait, le féminisme, ça regroupe quand même tout un tas de problématiques. Et après, y a tout ce qui touche, pour moi, à la culture du viol, c'est-à-dire à quel point, dans toutes les strates de notre société, il y a des choses qui sont ancrées en termes de mentalité, donc qui sont ancrées à travers la pop culture, donc les films, la musique, les séries, et en fait les idées reçues. Donc, qui participent à la culture du viol. Et la culture du viol, c'est tout cet ensemble de préjugés qui vont tendre d'une façon ou d'une autre à minimiser ou à justifier le viol. Ça va de « non mais attends, t'as vu comment tu sors, machin, faut pas s'étonner en même temps si tu sors en mini-jupe », à les baisers volés dans les films qu'on trouve super romantiques alors que c'est une agression. »
Oui, ça aujourd'hui, on s'en rend compte, mais c'est vrai que pendant longtemps, on se dit « oh bah non, c'est normal, c'est même des affiches de films. » Les vieux
Bien
films
sûr,
comme
oui,
Casablanca.
Oui, c'est ça, où les meufs se débattent comme ça. Et en fait, la culture du viol, elle est omniprésente, elle est absolument partout. Et en fait, elle participe à nous rendre la vie un peu dure, quoi. Parce que, au final, s'il y a quand même un grand nombre de situations où on va te demander, en fait, si c'est pas un peu de ta faute, quand même, ce qui t'est arrivé. Et ça, c'est complètement
légitimé, quoi. On va demander aux femmes comment elles étaient habillées, si elles
comment elles étaient habillées, mais attends, mais t'avais pas bu aussi, mais attends, mais il était tard, mais attends, mais tu l'as rencontré sur Tinder, tu le connais même pas, t'as accepté d'aller chez lui, enfin, je veux dire, c'est toujours la faute de la victime, en fait. Et ça, c'est quand même un gros souci, donc ça rejoint évidemment la question de la justice, mais ouais, c'est assez vertigineux, en fait, quand tu te rends compte à quel point c'est partout dans toutes nos constructions.
Mais surtout, tu fais bien de parler de la pop culture, parce qu'à mon sens, il y a plein de séries qu'on regarde aujourd'hui qui n'ont pas du tout la même saveur quand on les regarde maintenant, quoi. Je veux dire, par exemple, Oh, I Met Your Mother. Il y en a tellement. Même Friends.
Ouais.
Récemment, j'ai re-regardé Girls. Ça a trop bien vieilli.
Ok.
Ça y est. C'est bon. Je sais pas si tu l'as vu, cette série.
Non, j'ai jamais regardé.
Tu vois, ça a trop bien vieilli. C'est pas si vieux, hein. Mais il y a des séries comme ça où ça passe et d'autres où ça passe pas du tout. Tu te dis que tes personnages préférés, quand même, ils sont en border, quoi.
Ouais, moi, How I Met, ça a été douloureux. Hein. How I Met Your Mother, parce que c'était ma série préférée quand j'étais au lycée. Et en fait, plus les années ont passé et plus je la re-regardais, et plus ça devenait vraiment difficile pour moi de regarder ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses gravissimes, mais surtout principalement le personnage de Barney, qui est atroce, mais qui est légitimé par absolument tous ses potes, il y a personne qui le stoppe jamais. Tout le monde fait genre oh, c'est vraiment un abuseur, dis donc, quel manipulateur, quel. Mais en fait, ils l'adorent tous pour ça. Et quand tu parles aux gens, les gens adorent Barney parce qu'il est drôle, machin, etc. Mais il véhicule des trucs gravissimes, quoi. Il y a non seulement la question de la culture du viol dans la pop culture, mais en fait, la pop culture véhicule tout un tas de choses. C'est pas juste la culture du viol, c'est aussi voilà tous les biais sexistes, toute la grossophobie, le sexisme ambiant, enfin la pauvreté. Des personnages féminins dans les films, les séries, des énormes cartons, hein, mais enfin, j'imagine que tu connais peut-être le Bechdel test, qui est un test élaboré par Alison Bechdel, qui vise, donc là, ça a plutôt pour but de regarder les films de façon générale, en gros, c'est pas pour discriminer chaque film individuellement, mais en gros, c'est un test qui dit, ok, alors, est-ce que dans ce film,
je connais pas du tout,
il y a deux personnages féminins, au moins, est-ce que elles sont nommées? Est-ce qu'elles ont des noms? Ou c'est juste les side chicks, là? Et est-ce qu'elles parlent entre elles d'autres choses que des mecs? C'est
hallucinant,
sidérant,
ah ouais,
de voir le nombre de films qui ne passent pas ce test. En fait, on est tellement habitué à ce que ce soit la norme qu'il n'y ait pas de personnage féminin. Enfin, si tu penses à tous les plus grands films, ce que j'aime bien, ce qui est un petit délice, c'est de taper les 100 meilleurs films du monde. Tu tapes ça sur Google et tout. Donc là, tu as tous les grands classiques américains, les... Ouais, ben, tu vois, les gens, les grands Spielberg, machin, etc. Et en fait, ben, il n'y en a aucun qui passe le Bechdel test.
Attends, mais tu viens de me faire penser. Mon film préféré, c'est Jurassic Park.
Jurassic Park, est-ce qu'il passe le Bechdel test, du coup ?
Pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a qu'un personnage féminin.
Qu'une meuf, ouais.
Et elle ne parle pas avec une autre meuf. Eh, c'est Laura Dern,
ouais.
Effectivement. Et elle ne parle pas avec d'autres meufs, parce qu'il n'y a pas d'autres meufs.
Ouais. Mais juste, en fait, il faut imaginer une seconde si c'était l'inverse. Si dans tous nos films... Il n'y avait jamais deux mecs qui parlent ensemble.
Et qui ne parlent pas de meufs.
Et qui ne parlent pas de meufs. Mais en fait, c'est juste ce mécanisme de retournement de situation, il te fait juste exploser la tête. Parce que tu te dis, on est tellement habitué à ce qu'il n'y ait pas de meufs dans les films. Vrai. C'est devenu la norme, tu vois.
Retour vers le futur, c'est pareil.
Retour vers le futur, c'est pareil. Enfin...
Tu viens de me foutre une claque. Là, je suis en train de me passer plein de films. Genre, mais même genre les Goonies.
Non, mais ouais.
Et même Stranger Things ne passe pas. Ah, si, et non, il passe pas parce que quand elle parle avec Max.
Est-ce qu'elle parle d'autre chose
et
que
non,
de
elle
Delphine,
parle des garçons. Elle parle des garçons.
Du garçon,
Et non. Et ben voilà, faites le test chez vous parce que c'est super intéressant.
Donc, tu vois, ce test, il sert pas à dire, ouais, tel ou tel film, tous les films sont sexistes. C'est pas ça le truc. C'est juste de montrer quand même. Mais la dinguerie, quoi. La dinguerie que tous nos produits culturels. Soit, en fait, bah, tous nos produits culturels sont faits par des hommes. Et donc, c'est normal, en fait, qu'il y ait si peu de meufs. Et généralement, quand il y a une meuf, bah, son rôle, c'est d'être la meuf. Enfin, voilà. Ce test, je trouve qu'il est assez pertinent pour se rendre compte de l'ampleur du délire, en fait.
C'est... Ah, je suis en train de penser à plein d'autres films. Mmh. Mais c'est fou! J'aimerais savoir si tu as des ouvrages ou des films à recommander qui te plaisent et que tu aurais envie de donner à des gens qui aimeraient s'informer, s'éduquer sur le sujet.
Alors, il y a un livre qui vient de sortir de Marie Kirschen qui s'appelle Her Story, genre comme History mais genre Her avec Story. Her dedans, devant, qui est un espèce d'abécédaire des féminismes, enfin ça s'appelle Histoire des féminismes, le sous-titre. Et qui est un espèce d'abécédaire, donc tu as un mot par lettre, et qui te fait un peu un récap des luttes féministes et des sujets voilà, qui divisent et des sujets voilà, qui sont au cœur du combat aujourd'hui. Et c'est illustré par une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anna Wanda Guguzé. C'est vraiment un très beau livre et c'est très facile à lire. Et ce mode d'abécédaire, ça permet de lire un article, puis un autre. Tu vois, c'est pas...
Tu peux prendre le
ouais voilà
peu,
tu peux le prendre comme tu veux, si tu veux aller voir à la page M, tu peux voir c'est vraiment pas mal ça je trouve parce que c'est un bon condensé.
OK.
Après pour se rendre compte de l'ampleur du problème de la place des femmes dans notre société et dans alors c'est dans la ville, dans les médias, je sais plus ce que c'est le troisième truc mais c'est Présente de D'accord. Lorraine Bastide.
Ah bah oui.
Et donc ça s'appelle genre
mais qui vient de sortir, non ?
Qui est sorti en septembre, ouais. Présente de Lorraine Bastide, donc qui est en fait un condensé de tout ce qu'elle a concentré comme information au cours de ses rencontres, des conférences qu'elle a organisées, etc. Et en fait, bah, de base, Lorraine Bastide, elle est journaliste et elle connaît du coup très bien la question des médias. Et du coup, elle parle beaucoup de la place qu'ont ou pas les femmes dans les médias, dans l'espace public, et voilà, l'espace médiatique et l'espace public. Et c'est super intéressant et c'est super accessible. C'est écrit d'une façon, voilà, où elle est très drôle, en plus, elle a un humour très cynique que j'adore. Donc, Présente, c'est vraiment... Enfin, moi, je sais qu'à Noël, je l'ai acheté en 5 fois, je l'ai offert à tout le monde, quoi. je l'adore. Ensuite, il y a Mona Chollet qui est super
bien
aussi.
Sûr.
Voilà, Mona Chollet, c'est vraiment génial. Donc
pour
elle
commencer,
a...
c'est très très bien. Moi,
ouais,
je trouve.
Ouais, tu trouves ? Bah ouais, Mona Chollet, elle a fait Beauté fatale, donc c'est les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Donc elle parle de tous les mécanismes qui gravitent autour de la beauté. C'est franchement, moi, c'est un peu un des livres qui m'a un peu fait exploser la tête. Quoi, j'ai fait genre oh mon dieu, genre mais oui
lu,
quoi.
Moi j'ai lu que Sorcières.
Et Sorcières, c'est génialissime aussi. Elle reprend à travers l'histoire des sorcières et la figure de la sorcière de nouvelles injonctions faites aux femmes. Donc c'est super intéressant comme livre. Et après en BD, bah moi je ne cesse de recommander évidemment Les Culottés. J'adore une BD de Myrion Malle qui s'appelle Commando commando-culotte qui...
J'adore les noms, commando-culotte.
Commando-culotte, qui analyse la pop culture, voilà, avec un œil critique féministe.
Ok, c'est trop
donc c'est,
ça.
Voilà, c'est, ça parle de films, de séries, ça parle de Game of Thrones, et c'est toujours, c'est hilarant. Enfin, Myriam Mal, elle est absolument géniale, quoi. Donc ça, c'est vraiment top aussi.
Bah, bientôt, tu pourras recommander ton propre livre. Parlons-en, c'est le moment.
Oui.
Alors, il faut savoir que je vous le gardais pour la fin. Mais, et vous, elle arrête Instagram. Non, c'est faux. Non, et vous, elle a un projet sur le feu depuis plusieurs mois. Et ça y est, ça se concrétise enfin. Qu'est-ce que c'est ?
Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une bande dessinée.
Waouh, toi qui ne savais même pas que tu pouvais en faire
ouais,
il y a
moi
quelques
qui me dis,
mois.
Ouais, ouais, bah oui, en fait, c'est assez incroyable. Je suis très, très contente.
Mais comment ça s'est passé ? Parce
ça
que, du
s'est
coup...
passé... Alors, à la fin du premier confinement, donc après cette période où j'ai justement fait plusieurs petites BD pour Instagram, comme je disais, j'ai reçu un petit mail d'une éditrice, en fait. Coucou Aurélie, chez Albin Michel. Qui m'a contactée en me disant coucou. Enfin, elle n'a pas dit coucou. Hein.
Si, si, kikou.
Yo, meuf.
Elle a dit kikou.
Est-ce
kikou,
que ça te dit on bosse ensemble ? Non, mais elle m'a dit, en gros, elle me dit qu'elle aime beaucoup mon travail sur Instagram et que si j'ai un projet de bande dessinée, un projet de livre, elle serait ravie d'en parler avec moi. Et voilà. Et...
Elle parlait de BD déjà ou elle te parlait de livre ?
Ouais, elle me parle de livre, je pense. Elle me parle de livre. Et moi, je me dis, oh là là, mais c'est dingue. Enfin, Albin Michel, c'est une énorme maison d'édition. Je me dis, waouh, mais c'est absolument génial et tout. Mais j'ai pas de projet, quoi. J'ai pas de projet sur le feu. Moi, j'étais en train de passer mon diplôme, en train de dessiner les produits Tripier, là. Enfin, j'étais pas. voilà, je pensais pas à faire une BD. Et voilà, on discute et elle me dit que ça pourrait quand même être super bien de faire une bande dessinée de la même façon que ce que je fais sur Instagram, mais en livre, quoi. Et donc là, j'ai un peu les étoiles dans les yeux et
bah,
tout.
Oui.
Je me dis, ok, ok, bah ouais, ouais, carrément, grave. Et en fait, on laisse l'été couler et on se dit, on s'en reparle à la fin de l'été. Et à la fin de l'été, on se recontacte et on se rencontre, etc. Et on discute. Et moi, j'avais réfléchi à un projet et je lui ai présenté le projet. Et elle m'a dit, bah, go, carrément. Elle m'a vraiment dit, tu fais sur ce que tu veux, genre, peu importe ce que tu fais, je te back up, quoi.
YOLO.
Et du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai commencé à l'écrire, etc. Et je voulais être sûre que tout soit vraiment compréhensible. Et par exemple, bah voilà, des fois, moi, il y a des termes que j'oublie, qu'il faut les définir, par exemple, des choses comme ça, tu vois. Et du coup, je voulais être un peu épaulée là-dessus. Et du coup, elle m'a présenté à une collègue, une autre éditrice, qui a été du coup ma responsable éditoriale, quoi, à qui j'ai fait relire mes chapitres, etc. Et du coup, de septembre à février, on a travaillé comme ça, j'écrivais les chapitres, je faisais les brouillons, je les envoyais, elle me disait ça, faudrait peut-être que tu changes ça comme ça, etc. Et voilà, donc il a fallu que je finisse tous les crayonnés, et ensuite, il a fallu qu'ils soient tous validés, que je passe tout au propre.
Et ça prend un temps fou, en plus.
Ah, mais c'était dingue, parce qu'en plus, j'ai eu l'excellente idée de me dire, je vais tout écrire à la main. Il y a beaucoup de textes hein, dans ma BD, quand même. Et je me suis dit, non, pourquoi utiliser une typo dactylo ? Non, quand tu peux tout écrire à la main, super. J'ai finalement fini le projet, donc il a fallu faire des petites retouches, etc. Et puis enfin, le projet est parti chez l'imprimeur, etc. Et ça sort le 5 mai.
Bah déjà, c'est fou parce que nous, on le savait déjà depuis
ouais.
un moment que t'écrivais un bouquin. Mais là, en plus, au moment où on parle, eh ben, elle ne vous l'a même pas encore annoncé.
Ouais.
C'est ça qui est beau. J'aime bien avoir l'exclu. Donc du coup, au moment où on se parle, tu l'auras annoncé dans quelques jours.
Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai dû garder le secret. C'était très, très dur. Parce qu'en plus, du coup, moi, j'ai un peu l'habitude de partager un peu mon quotidien sur Instagram, tout ça. Et là, du coup, je devais cacher toute cette partie de
ouais,
mon quotidien.
C'est des mois de travail où tu ne pouvais pas communiquer dessus.
Ouais.
Quoi.
Ouais.
Mais je pense que ta communauté, du coup, ils savent quand même que tu es sur un dos. Et ils ont deviné un peu, non ?
Ils ont grave deviné. Ils et elles ont grave deviné. Donc, ça m'a beaucoup fait rire. En même temps, oui, c'est quand même assez logique. Je dis que je travaille sur un truc depuis des mois. Je ne suis pas en train de monter une entreprise de jus en briques, quoi. Évidemment que je fais une BD. Je pense que c'est assez logique, quoi.
Et je pense que ils et elles, c'est ce qu'ils attendent aussi.
Ouais.
Enfin, je pense qu'ils aimeraient bien.
Grave.
Attends, vous êtes combien sur ta page ?
33 000.
Et ça fait du monde hein, quand même. Essaye de faire tenir 33 000 personnes dans une pièce. Ça fait du monde.
C'est chaud, c'est serré.
C'est serré. Non, mais c'est trop bien parce que le chemin parcouru entre le moment où tu as ouvert ta page et aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses en si peu de temps entre faire des petites BD alors que tu n'y aurais jamais pensé pour vulgariser le féminisme et aussi le corps de la femme. Toi, ta patte qui a changé, qui a évolué. Ce petit crew que vous avez créé sans vous en rendre compte, vraiment. Le militantisme et l'activisme, tu as été quand même hyper présente. Tu as eu envie de faire plein de choses. En concret, je veux dire, dans la rue. Et puis aujourd'hui, cette BD, enfin, t'as fait une première BD. Enfin, ça, oui, c'est un petit bouquin où t'avais quand même ta tête et deux pages. Et puis là, aujourd'hui, c'est ton livre. Donc, je pense que je sais pas si tu te rends compte, mais en si peu de temps, il s'est quand même passé énormément de choses.
Bah, en moins de 2 ans, quoi.
Ouais. C'est beaucoup, hein.
Ouais, c'est complètement.
Est-ce que tu vas t'arrêter un jour ou ça va continuer ça tout le temps?
Viser la lune.
Ça ne me fait pas peur. Amel Bent.
Ouais, bah non, bah, pour le moment, enfin, c'est. J'aspire à faire ça et à vivre de ça, donc j'ai à peu près aucune raison de m'arrêter. C'est un job tellement plaisant de pouvoir faire de la BD et de pouvoir la vendre. Alors en vivre, je vais pas dire en vivre, hein, parce que la bande dessinée, spoiler, c'est très mal payé. Mais j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter parce que j'adore faire ça. C'est absolument génial.
Et donc aujourd'hui, tu as quand même un shop, un petit shop où tu...
Ouais.
Tu fait des tirages de tes illustrations qui a l'air de beaucoup plaire. Bon, nous, on en a énormément à la maison. Alors, dans la chambre, on n'en a pas, mais on en a dans quasiment toutes les pièces de la maison. Généralement, on est victime à chaque fois que ça y a un drop, on est là, quoi.
Client fidèle.
Mais ouais, mais parce que je pense que chaque dessin est tellement différent de l'autre que du coup, t'as pas trop envie de passer à côté, donc t'as envie de les avoir. Déjà, en termes de couleurs, ça n'a rien à voir pour certains. Et donc, je pense qu'avoir les tirages chez soi, ça doit faire plaisir à plein de, bah, ceux de tes abonnés ou pas, parce que s'il faut, ils sont pas abonnés tous. Hein. Mais donc, t'as un petit shop qui marche, tu fais des tirages, mais pas n'importe quel tirage, tu fais des rizos aussi. Donc ça, c'est une autre... pour ceux qui n'ont pas fait d'imprimerie, hein, comme nous, c'est un autre type d'impression, en fait,
ouais,
qui est plus complexe, entre guillemets. Tu fais quoi? Tu fais de la sérigraphie?
Je faisais de la sérigraphie à l'époque où mon atelier était ouvert. Hein,
oui.
C'est maintenant depuis novembre qu'il est fermé. Donc
rapport à une pandémie mondiale?
Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu en entends parler, mais ouais, c'est ça, en gros. Mais ouais, j'adorais la sérigraphie. Mais oui, j'essaye de diversifier les techniques d'impression parce que c'est fun et c'est cool et ça, c'est super chouette d'avoir des résultats différents. Je fais aussi des stickers. J'essaye de diversifier sur plein de supports parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très affiches, par exemple, et qui préfèrent des stickers, qui préfèrent des carnets, etc. La culture du print, de l'affiche, de la déco et tout, c'est pas non plus le truc le plus répandu. Surtout une affiche, voilà, une affiche à 25 euros, 30 euros, c'est pas évident pour tout le monde, quoi.
Mais je pense que de plus en plus, ça revient, vraiment. Enfin, les gens ont envie d'avoir
sûrement,
un objet qu'ils peuvent chérir, encadrer, etc. Et une dernière question, je voulais savoir ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un, surtout peut-être une jeune fille qui aurait envie de se lancer, alors que ce soit dans l'illustration ou pas, ou même juste dans le féminisme, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil?
Je dirais de se lancer parce qu'en fait, on a toujours, on a strictement rien à perdre. Et encore plus pour le féminisme, quand moi je vois tout ce que ça m'a apporté, toutes les rencontres que ça m'a permis de faire, tout ce que ça a débloqué dans ma vie. Enfin, le féminisme, de toute façon, c'est une libération. Faut vraiment, si on peut bien foncer la tête baissée sur quelque chose, c'est sur ça, quoi. Y a pas de doute à avoir. Si ça t'appelle, ça veut dire qu'il faut que t'y ailles, quoi. Alors, y aller, ça veut dire quoi? Y a plein de réponses possibles à ça. Y a pas une bonne façon de faire les choses. Mais en tout cas, je pense que pour une personne qui souhaite se lancer dans le féminisme, ça veut pas dire grand-chose, mais
Let's
go. Mais qui veut, qui veut s'investir, se renseigner, etc., en fait, tu trouveras très très vite des sœurs et tu trouveras très très vite du soutien. Et c'est en cherchant le féminisme qu'on trouve la sororité aussi, je pense.
Oui, c'est un mot dont on n'a pas parlé et que je voulais aussi expliquer parce que ça ne parle pas à tout le monde, la sororité.
Ouais.
C'est un mot qu'on n'utilise pas énormément dans toutes ces phrases. Pour toi, c'est quoi? Moi, c'est plutôt ce truc de sœur.
C'est un équivalent à fraternité, en fait, qui est quand même... qui vient de frères et du coup qui n'est pas vraiment très, enfin qui exclut quand même une partie de la population. Et du coup pour moi la sororité c'est voilà, c'est le soutien entre, enfin c'est un espèce de soutien indéfectible même avec des personnes que je connais pas en fait. C'est-à-dire que okay. Moi je me sens soror de femmes que je connais pas parce que voilà, parce qu'elles ont vécu telle ou telle chose et que je les soutiens. Enfin tu vois, quand tu vois des témoignages de meufs qui ont vécu des trucs, enfin voilà,
oui,
tu leur envoies
soutien,
tu leur envoies du love parce que genre parce que tu les comprends et que tu as de l'empathie en fait. C'est aussi une réponse à la misogynie ambiante et intériorisée qui est omniprésente et avec lesquelles on a grandi quand même vachement nous deux, je pense nos deux générations, c'était quand même la rivalité, la compétition féminine, c'était un truc très très fort. Et en fait la sororité c'est une réponse à ça, vous dire en fait c'est mort, on arrête de se tirer dans les pattes en tant que meuf parce que y a aucune raison et qu'en fait on est plus fortes toutes ensemble et que en fait c'est des super soutiens, les amitiés féminines, voilà, la solidarité féminine, c'est incroyable la force que c'est en fait et que bien ça sûr. Dégage et ça c'est une très belle découverte de se rendre compte que bah non, on n'est pas forcément toutes concurrentes quoi. Je dirais vous laissez pas démonter, on est aussi nombreuses, on est aussi fortes et en fait quand on découvre la force qu'on peut avoir toutes ensemble, ça vaut tout en fait, ça écrase tout et bah les misogynes en face on en fait qu'une bouchée et voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Eve. Si tu veux savoir, ça fait 1h55 et 59 secondes qu'on parle. Merci beaucoup. Bien sûr, dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens des ouvrages dont parle Eve et je vous mets aussi son compte Instagram que je vous invite fortement à aller voir si vous avez envie de comprendre un peu mieux et de vous divertir et de vous en mettre plein les mirettes.
Parce que c'est fun quand même.
Quand même, c'est très fun. Et on vous dit à très vite pour The Raccoon Club, épisode 8. Au revoir.
Au revoir.
Merci à Eve d'être venue dans ce 7e épisode de The Raccoon Club. Déjà, au-delà d'être ma belle-sœur, c'est une artiste incroyable. Je vous invite fortement à vous procurer sa BD qui est aussi ludique que pédagogique qu'importante et de la suivre sur son compte Instagram, @aboutevie. Pour que les mentalités bougent, on peut parler autour de nous, essayer d'éduquer nos proches sur ces sujets, les inviter à voir les choses autrement. Et enfin, ne plus jamais se taire, ne plus jamais être lisse, docile et sage. À nous de faire du bruit. Je vous mets tous les liens des ouvrages dont parle Eve dans la barre d'infos et c'est à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux, en vous abonnant à mon super Instagram, Raccoon Club Podcast, et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.